Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local, hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
On va se gêner en direct du Festival de Cannes.
La Palme d'Or.
Europe 1.
Goes to.
Laurent Ruquier.
En direct de Cannes pour notre deuxième jour sur la croisette, toujours dans les salons du Majestic avec un public chaleureux. Heureux de retrouver Titoff. Ouais. Caroline Diamant, ouais. Stevie Boulet, ouais. Jérémy Michalak, ouais. Notre spécialiste cinéma Isabelle Motron, et la vedette de la croisette, il n'y en a qu'une, Pierre Bénichoux. Ouais.
Il y en a deux, il y a Pierre et Daniela Lombroso.
Il fait un peu moins beau qu'hier, c'est vrai, mais le soleil revient tout doucement.
Hein? Ah bon?
Ah oui,
vous êtes sûr?
Je ne sais pas si ce matin vous êtes sorti, mais c'est vrai que c'était un peu humide.
Non, moi je suis rentré ce matin.
Ah oui. Je vous ai vu avec votre imperméable courir aux projections.
Absolument, sous une pluie battante. Eh oui,
elle fait son travail jusqu'au bout, ah, Isabelle Motreau.
Ouais, mais avec plaisir, hein. Dites donc, c'est génial d'être là pour quelqu'un qui aime le cinéma.
Évidemment.
Privilège.
Pour les autres aussi, remarquez. Hein.
Oui, c'est vrai.
Pour c'est vrai aussi, qu'il y a aussi, hein.
Parce que quand on n'aime pas le cinéma, on n'est pas déçu non plus.
C'est vrai que ça se passe plutôt bien pour d'autres aussi. Hein.
Ah, on nous apporte du café, c'est formidable. On est très très bien accueillis ici, ouais. À Cannes, je dois dire. Le public est charmant. Normalement. Ah non, je le dis sincèrement. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, parce qu'on a quand même 2h30 à voir, et vous allez peut-être nous le prouver, mais on a aussi des auditeurs au téléphone qui, eux, nous prouvent leur sympathie. Par exemple, Florian. Bonjour, Florian.
Bonjour.
Oh, et... qu'est-ce qu'il est sympa.
Vous voulez d'abord dire bonjour à Monseigneur Bénichoux, dites-vous.
Oh là là. Ah oui, c'est génial, Bénichoux, c'est le. C'est la star de votre équipe.
Ah, la star de l'équipe. Mais quand même...
En tout cas, tu ferais mieux de changer de prénom, Florian.
Qu'est-ce qu'il y a, Florian ?
Florian, est-ce qu'on s'appelle Florian ?
Non, mais sérieusement. C'est très convenable, Florian.
Oui. Tu connais beaucoup de Florian, toi ?
Non, pas
non
trop.
Mais est-ce que tu peux ne pas insulter quelqu'un qui te fait un compliment ?
Je n'insulte personne. Je lui demande de changer de prénom. C'est pas sorcier, quand même.
Mais
quand...
J'ai pas choisi mon prénom, hein.
Et c'est vrai, Florian. Et quand même, vous voulez rectifier quelque chose ? Vous trouvez qu'on a fait un accueil honteux hier au génial Ambroise Michel, alias Rudy, qui joue dans Plus belle la vie. Vous me dites quand même que Plus belle la vie, c'est 5 millions de téléspectateurs, ouais, tous les jours, 20% de part de marché, et que c'est donc une honte que nous n'ayons pas fait, on va dire, un peu plus de compliments à ce jeune garçon qui avait été trouvé par Christophe Beaugrand sur La Croisette.
Mais on le connaît pas, c'est non, pas
mais méchant, charmant en plus. Moi j'ai des goûts populaires, moi j'aime bien ça, moi. C'est beau la vie, c'est très bien.
C'est
beau.
Plus belle,
plus belle. La vie.
Plus belle la vie, c'est encore mieux. Mais c'est formidable.
C'est beau la vie, c'était une chanson de Jean Ferrat.
Et Ambroise, Ambroise paraît très bien, moi.
Je... Non, vous n'avez pas nous la faire.
Si, je le refais chaque fois.
Ah non, vous n'avez pas nous la faire deux
fois. Ça s'appelle le comité de répétition.
Vous regardez Plus belle la vie tous les soirs, Florian ?
Pas tous les soirs. À Florian, oui.
Tous les soirs. Comment ?
J'écoute souvent en podcast.
Non, je vous demandais Plus belle la vie, vous regardez tous les soirs ?
Ah, pardon.
Tu vois, même ceux qui regardent sont cons.
Non, cool.
Florian, on vous entend très très mal.
La
liaison est très mauvaise, alors on ne va pas pouvoir rester très longtemps avec vous.
On va même te couper au montage, Florian.
On est en direct, on peut pas, mais autrement on l'aurait fait. Vous souhaitez...
Florian, est-ce que vous savez que vous êtes de qui vous êtes l'homonyme, Florian ?
Comment ?
C'est un fabuliste qui s'appelle Florian.
C'est ah oui,
un,
aussi, oui.
Un sous la fontaine
garde, donc
qui a écrit La Carpe et les Carpillons, que vous avez tous appris en classe. Ceux qui ont continué après la 9e, évidemment.
La
9e,
ça existe plus. La 9e.
Bonne journée, Florian. J'aimerais vous dire qu'il faudrait remédier la saison prochaine à changer le nom désuet de votre émission, me dit Jean-Eude. Voici quelques propositions de titres.
Jean-Eude.
On s'en parle ou pas ?
Jean-Eude.
Il propose Vol au-dessus de Pierre Bénichoux.
Pas mal.
The Big Benny Show, Pierre va se gêner, Je serai dans le public cet après-midi, accompagné de ma compagne Berthe, nous dit Jean-Eudes.
Oh, c'est Berthe et Jean-Eudes ?
Oui, Berthe et Jean-Eudes. Ils sont belges, faut dire. Ça,
ah, oui,
d'accord.
Ah oui, ils ont des prénoms différents. Là.
Nous venons de Durbuy, en Belgique. Vous me reconnaîtrez facilement à mes chaussettes Mickey et à ma moustache vintage.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai que ça à foutre de regarder les chaussettes Mickey et Jean-Eudes.
Ils vont pas oser
lever la main.
Les
chaussettes, c'est pour Berthe.
Est-ce qu'ils sont là ?
Berthe au grand pied.
Est-ce qu'ils sont là ?
Ils sont là, Berthe et Jean-Eudes ? Non, pas de Berthe et pas de Jean-Eudes.
Jean-Eudes.
Non, ils sont, peut-être une blague, alors, vous voyez, oui, hein, ça n'existe pas. Bonjour tout le monde, comme l'an dernier, ce sont les mêmes chroniqueurs. Comme l'an dernier, Pierre Bénichoux nous parle de la vue de sa chambre. J'espère que nous n'aurons pas Fabienne Thibault comme invité d'honneur. Ils ont peur, nos auditeurs. Hein. C'est pas pour vous gâcher votre petit déplacement en province, me dit Zilou, mais c'est encore la crise. Il faudrait peut-être faire attention. Parce que là, entre les billets de train, les notes d'hôtel, les restaurants, les sorties, le luxe, les vidages de minibars, ça va finir par coûter cher à Europe 1. Oui. Et qui c'est qui se retrouve avec des pubs plein ses podcasts après ? C'est l'auditeur. Ah. Je vous suggère donc de prendre des mesures pour faire des économies. Par exemple, Pierre Bénichoux nous a prouvé hier qu'il était largement capable de faire l'émission tout seul. Donc soit vous renvoyez tous les autres à Paris en autostop... Soit on les garde, mais c'est Bénichoux qui va sur la croisette faire des interviews de Tex.
Non, je voudrais demander simplement, pour faire des économies, de supprimer tous les extras qui vont nous être réclamés avant, quand ils rendent la valise. Ils te disent, n'oubliez pas que vous devez 230 machin. Non, tous les extras sont supprimés. Ah. N'est-ce pas, monsieur Majestic ? Comment il s'appelle, le grand, là ? Majestic ?
Monsieur Dessaigne, vous voulez dire le patron de...
Monsieur Barrière.
Du groupe Dessaigne. Barrière. Ah, oui. Je signale d'ailleurs que nous sommes dans le salon Martha. Martha, oui. Et que Stevie est très ému car c'est son ami Martha Barrière qui a donné le nom à ce salon. Hein. Vous avez la larme à l'œil, Stevie.
Bah oui, ça me renvoie à plein de souvenirs.
L'époque du cirque, tout ça.
L'époque... Arrête, vous n'allez pas recommencer avec ça. Oui, elle était acrobate.
Non mais l'acrobate.
Oui, non mais c'est bon, merci Pierre.
Faut bien s'entendre sur la définition du mot acrobate.
Ça suffit, merci.
Tu faisais la barre fixe, toi.
J'ai pu me libérer, ce qui veut dire que ce jour, vendredi, mon beau Pedro, je serai dans le public accompagné de ma fille Fanny. C'est pour cela que je compte sur votre discrétion. Nous nous échangerons durant l'émission que des regards entendus et un petit clin d'œil en ma direction. Ça fera l'affaire, à défaut d'autre chose.
Où qu'il est ?
Où elle est ?
Comment elle s'appelle ?
Elle ne veut pas devant sa fille, évidemment.
Ah oui, bien voilà.
Ah, ah si, je crois que Pierre l'a repéré.
Non, j'essaye. Vous savez, on a beau être depuis très longtemps une star, les projecteurs vous font toujours mal aux yeux.
Elle est là-bas.
Où est-elle?
Alors qui est Fanny ?
Qui est Fanny ?
Ah oui, ça c'est la fille, tu vois. Il faut que tu regardes à côté,
justement,
Pierre.
Justement, il y a la place d'un mort, là, si vous voulez venir. Je déteste qu'il y ait un fauteuil...
Vide au premier rang.
Pourquoi il y a un fauteuil vide au premier rang ?
Je ne sais pas.
J'ai l'impression d'être Titoff tout d'un coup.
Quoi, s'il n'y en a qu'un seul ?
De jouer devant une salle mi-pleine, j'ai pas l'habitude.
Mais qui est con, ça ?
Merci de dire à Isabelle qu'elle est encore plus sexy que d'habitude. La preuve, Pierre Bénichoux s'est installé à côté d'elle. Le Vénard, c'est Eric de Bruxelles qui nous écrit. Il faut dire qu'on voit l'émission en direct sur europe1.fr et que nous sommes filmés. Vous pouvez regarder l'émission en même temps que vous l'écoutez. Écoutez, qu'est-ce que vous dites, Pierre ?
Oh non, rien. Il dit des choses qu'on ne va pas répéter.
Oh, sous des apparences de critique de cinéma intellectuel, tu ne peux pas savoir. C'est une vipère qui est en train. Tu ne peux pas savoir une hyène. Une tigresse, hein, ma poule.
Arrête avec ça.
Je crois qu'il est encore entre à Paris, non ?
On l'aime, son Pedro, hein ?
Oui.
On l'aime, son Pedro. Bravo pour votre talent et votre travail. Bravo également à vos chroniqueurs qui vous accompagnent chaque jour. Je devrais normalement être dans le salon du Majestic ce vendredi. C'est Elodie qui me signale sa présence. Une rumeur circule disant que vous imitez très bien Bourville, Laurent.
Oh non,
c'est une rumeur. Il ne le fait plus.
Il ne le fait plus jamais.
Pourriez-vous nous en faire une pour vérifier ? Oh ben non, pas aujourd'hui.
Il est bon, hein, il est formidable. Hein.
Ah là là.
Moi, j'avais un grand-père qui imitait De Gaulle aussi, on faisait semblant de rire. Est-ce que vous pouvez nous faire Giscard ?
Non.
Ah, c'est Giscard.
On n'est pas gâtés au niveau des chanteurs dans vos émissions, me dit Mickaël, avec Pierre Bénichoux qui ne chante que des chansons d'avant-guerre, Christophe Beaugrand qui ne chante que des chansons nasses de chanteuses has-been, Lamergo quand elle est là, qui avec sa voix de crécelle nous fait mal au tympan. Y a-t-il quelqu'un normal dans votre équipe qui puisse nous chanter une chanson normale ?
François Hollande.
Par exemple, Caroline Diamant, qui a l'air normale, pourrait-elle nous chanter une jolie chanson? C'est vrai, Caroline, ce serait une première, ça.
Ah, ce serait bien. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous chanter, Caro?
Il y a du beau monde à Cannes ici. Vous pourriez peut-être enregistrer un disque.
Oui, vous avez raison. J'ai travaillé 15 ans dans la musique. Je pense que si j'avais eu une jolie voix, ça, ce serait...
Non, mais combien de fois tu vas nous le dire, travailler 15 ans dans la musique?
Mais si, t'as une belle voix.
Non, mais je veux dire, tu vois pas, cette... On a l'impression, j'ai fait Verdun, j'ai fait oui, t'as travaillé dans la musique.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'aurait repéré. Ça veut dire qu'on m'aurait repéré si j'avais une jolie voix.
Non, pas du tout.
Si t'avais réussi, tu serais pas là.
C'est vrai. Comme toi, ton âge serait la retraite, moi.
Ah, que... Il y a une elle petite guerre déclarée.
Elle l'avait fait bien une fois, et puis là, elle l'a loupé.
Alors, chante,
non, non, j'ai plus envie de chanter, je préfère qu'on la chante, Pierre. C'est vrai.
Mais vas-y, il y a une place
bien.
À prendre. Une chanson normale.
À la demande générale.
Putain, il en loupe.
Non, ils veulent pas.
Ah non, mais moi, j'aurais chanté La vie en rose, c'est pas récent. Ben,
allez-y,
hein.
Alors, Caroline.
Ok. Alors. Quand.
On se retrouve avec la page de publicité.
Laurent Ruquier et toute son équipe sont en direct de Cannes cet après-midi encore, depuis le Salon Martha de l'Hôtel Majestic.
Merci Caroline, et oui. Et hier, nous évoquions la grève des danseuses du Crazy Horse Saloon. Margot m'envoie un mail pour me dire qu'hier soir, au JT de TF1, elle a entendu cette histoire de grève des danseuses du Crazy Horse. Et figurez-vous que Monsieur Bénichou avait sûrement un peu raison en disant qu'elles étaient payées plus de 2000 euros, puisqu'au JT de TF1, ils ont dit 3000 euros net. Il ne reste plus qu'à demander à Paul Vermus un troisième chiffre. Bonne journée à Cannes. Alors là, on ne saura jamais vraiment combien sont payées ces
filles. J'ai tout.
Comment ça, vous avez
tout? J'ai tout parce que j'ai fait l'enquête. Pendant que vous gobergiez à bouffer les tours de dos Rossini, moi je téléphonais.
Parce que Suzanne Durand, qui est la déléguée syndicale SFA-CGT des danseuses du Crazy Horse, plus connue sur scène sous le nom de Liv Minotte,
oui.
Ce qui pour une déléguée syndicale est quand même toujours cocasse, eh bien Liv Minotte, Suzanne Durand, elle, dans l'Humanité ce matin, confirme qu'elle gagne 2000 euros net par mois en moyenne.
Non, mais justement, je vais vous expliquer. Quand vous voyez à la télévision ces jeunes filles ravissantes qui viennent d'être engagées, elles sont engagées, comme toujours, à un tarif moins important, évidemment, que celles qui sont en place depuis longtemps. Il y en a deux ou trois par an qui sont engagés au tarif de base.
Ça veut dire
que
tu gagnes beaucoup plus que nous,
Qu'est-ce
toi.
Qu'est-ce que tu as à me toucher, toi?
Parle dans le micro, non. Mon Dieu.
Je parle dans le micro. 2300 francs quand elles
euros,
sont engagées.
Euros.
1300 euros. Vous voyez, vous me déstabilisez. Au bout d'un an. Elle gagne 40% de plus au bout de deux ans. Ce qui fait que celle qui sort depuis 2-3 ans, elle gagne 4000 euros comme les gens riches.
Bon. Ça veut dire que si Love Amour dansait encore, elle gagnerait 20 000 euros. Quoi.
Oh, t'as une décote à partir d'un certain moment.
Mais bon, c'est pour un public marseillais. Alors donc, elles sont là comme ça. Les meneuses de revue sont payées beaucoup, beaucoup plus cher et les solistes aussi. Mais. La maison ayant eu des revers de fortune, nous dit-on. La direction a demandé à ce que tout le monde soit mis au même salaire, qui est de 2300 euros, salaire de base. Or, c'est pour ça qu'elles font grève. C'est pas parce qu'elles gagnent 2000 euros, c'est parce qu'on voudrait leur faire gagner 2000 euros. Est-ce que vous avez compris, mon petit
gars ?
Voilà. Marguerite, une auditrice, nous dit « Je viens de vous entendre vous étonner que les danseuses du Crazy Horse gagnent moins que 2000 euros. Je suis prof, je travaille depuis 12 ans, je suis au 7e échelon. »
Oui, mais t'as vu ton cul aussi.
Non, Pierre.
Franchement.
Oui. Jusqu'à quand on va pousser le pot. Jusqu'à s'étonner. Attends. Que les belles gonzesses gagnent du pognon.
Non, mais c'est en plus misogyne.
Elle terminait comme ça, Marguerite. Elle disait, je gagne pour un temps plein 1900 euros net par mois en tant que prof. Va peut-être falloir que je me mette à la danse. Elle a tout compris.
Les profs sont pas assez payés, mais là, nous étonnons. Alain Delon a gagné plus d'argent que moi dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau.
Non.
Il est plus con aussi, mais il est plus beau. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu veux que je te dise?
Avant, il était plus con.
Ouais, maintenant...
C'est l'autre Alain Delon. Alain Delon n'est pas con. Non, mais sérieusement, il faut pas se gendarmer contre ces choses-là. Il faut pas que la beauté soit le seul critère, mais que la beauté soit un critère. Qui peut dire le contraire? Allez, parlez un peu, les petits derrière, là-bas, hein? Alors,
Bon. En tout cas, ils ont repris le travail. Hier soir, il y a eu un spectacle. Et je peux savoir comment vous avez eu, de quelle source vous avez eu ces informations, Pierre Bénichou?
Ah ben, j'ai téléphoné à Robert le Silencieux. J'ai un ami, quelqu'un à quatre qui bosse là-bas. Non, parce qu'elles n'ont pas le droit en plus d'aller à l'hôtel. Elles n'ont pas le droit de donner leur numéro de téléphone. Elles n'ont pas le droit.
Mais c'est pas des putes,
elles
n'ont
pas le droit d'accepter un pourboire. Parce que c'est une boîte de nuit qui est tout à fait respectable. Ah oui. Alors que dans les autres trucs de striptease, ah ben là, tu glisses un billet, elles ont même une jartelle, tu leur mets un bifton dedans. Tu vois ce que je veux dire?
Il connaît, hein.
Ah, ouais. On voit, oui.
C'est un vrai amateur d'art. Hein.
Puis elle monte sur la table, elle danse devant toi sur la table. Et tout.
Oui, alors ça n'a rien à voir. Ça s'appelle un
parapute. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher.
Ça n'a rien à voir.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher.
Ah ouais. Sauf si tu laisses plus lourd comme pourboire.
Non.
Il a essayé, non.
Il a tout essayé.
Ça n'a pas marché.
Non, non, on n'a pas le droit, c'est vrai.
C'est encore une différence entre Delon et toi, peut-être.
Comment faites-vous?
Le petit protégé de Martha, là, voilà, il est chez lui, il est dans son salon. Cet hôtel a failli lui appartenir.
Il n'y a pas une suite Stevie encore, là, pas ça ici. Oh, ça
c'est vrai, vous êtes un peu l'héritier ici.
Mais ça va pas, non, mais calmez-vous.
Un peu quand même.
Ah, non,
il
non,
paraît
non.
qu'il y a un très beau tableau qu'on t'a légué et qu'on a refusé de te donner au moment de l'héritage.
N'importe quoi.
Bah, tu nous as bien raconté ça à midi.
Ah, tableau. Non.
Est-ce que quelqu'un peut réanimer Laurent?
Qui est en train de me faire une crise cardiaque.
On avait dit qu'on ne racontait collapsé. Pas à l'antenne les vérités qui étaient en antenne. C'est du off, ça, Pierre Bénichou.
Il n'y a pas de... Non.
C'est comme les billets pour les putes, hein. C'est du off, tout ça.
Il a dit, d'ailleurs, quand je vois ce tableau, mon cœur de saigne, il t'a dit.
C'est bien ce genre de code.
L'année prochaine, nous serons à Cannes en direct de chez Pierre et Vacances.
Et pourquoi ils ne le rendent pas, ce tableau? Je comprends pas. Il faut qu'ils le rendent.
Non mais Pierre, faites attention à ce que vous dites. On peut pas se fâcher avec nos sponsors.
Par exemple, on part ce soir.
Plus, ils ont été gentils avec toi. Je te signale, ils t'ont donné du caviar. Bah, hier, t'as demandé du caviar. Ouais. T'as dit si c'était une grande maison, devrait m'apporter 50 grammes de caviar. Cet après-midi, tout à l'heure, il a eu droit à une petite coupe de champagne avec un petit maître d'hôtel qui arrive avec deux petites tartines de caviar.
C'est pas bien vrai.
Et il nous a rien dit.
Hein? Et après, il va foutre le bordel entre le groupe et nous.
Ouais.
On ferait mieux de remercier, puisque vous allez repartir ce soir, cher Pierre, Audi qui nous transporte. Hein, on m'a signalé que les voitures qui étaient mises à notre disposition.
Elles étaient belles. Hein. Limousine A8.
Ah oui,
avec limousine A8. Avec le siège maçon.
Ah ouais, ouais.
Ah oui, c'est ça que j'ai senti à un moment donné.
Ça n'a rien à voir.
Ça, c'était Jérémy qui voulait une augmentation.
Ça n'a rien à voir.
Et puis HP aussi.
Quoi, HP?
HP
qui nous a invités à déjeuner à midi.
Ah oui,
Sponsor. Hôpitaux psychiatriques.
Voilà. Ils vont arriver, ils vont venir te chercher. Tout va bien.
Durex passer. Aussi, qui nous évite d'avoir des ennuis. On se retrouve dans un instant après la pub. Une question peut-être, première question difficile à laquelle vous allez devoir répondre. Je ne sais pas si vous allez y arriver les uns les autres. J'essaye. Sur quelle carte de visite peut-on lire « I am CEO Beach »
Beach ?
Oui.
Alors
beach,
CEO, c'est
beach.
Pardon ?
Beach ou Beach
plage ou pute ?
Beach, B-I-T-C-H.
Ah, beach, alors, ça veut dire chienne, alors.
Alors, c'est genre...
Ça veut dire connard.
Eh ben, Lady Gaga.
Non, ça veut pas dire connard.
Si, si, c'est traduit comme
non,
ça.
Non, beach,
ah, donc c'est un homme.
Normalement, c'est pour une femme qu'on dit bitch.
Non, la preuve que non, puisque cette carte de visite est écrite ainsi.
C'est un homme qui a de l'humour.
C'est un homme.
C'est un homme.
À moins que ce soit quelqu'un qui lui ait fait sa carte de visite à sa place.
Non, c'est quelqu'un qui, par choix, a mis ça sur sa carte de visite.
Il est gay?
Oui, j'en sais rien, je ne crois pas, non.
Il est américain.
Vous savez, je ne classe pas les personnalités.
Non, mais bon, quand tu mets bitch sur une carte de visite, moi je peux le faire parce que oui. Mais tout le monde non.
C'est-à-dire parce que oui.
Tu vois, je vois pas un homme comme ça, comme Pierre Bénichou, avec écrit bitch sur sa carte de visite.
C'est pas à lui que ça s'adresse. Il écrit sur sa carte de visite, c'est aux autres à qui il donne la carte de visite que ça s'adresse.
Ah, c'est pas imprimé.
Vous ne comprenez rien, décidément. Quand vous écrivez quelque chose sur une carte de visite, c'est pas pour les lire vous-même, enfin voyons.
Oui.
Vous n'avez pas des cartes de visite pour le soir, une fois rentré chez vous.
Oui, mais il y a marqué.
Regardez pendant une heure toutes vos cartes de visite. visite. Oui. Vos cartes de visite, c'est bien destiné aux autres personnes.
Oui, mais parfois, la carte de visite, il y a ton nom et on rajoute un petit nom.
Oui, mais à lui, sur ses cartes de visite, il a fait écrire « I am CEO, virgule, bitch ».
Attendez, CEO.
Barack Obama.
CEO.
C-E-O, ah. Si vous préférez en français.
Mais
je vous le prononce à l'américaine.
Ah oui, alors Chief Executive Officer.
Exactement. Bitch. I am Chief Executive Officer. Bitch.
DSK.
Non, non.
Sacha Baron Cohen.
J'ai dit que c'était pas pute.
Sacha Baron Cohen.
C'est vrai que ça aurait été d'un goût doux.
Sacha Baron Cohen.
Sacha Baron Cohen, non.
Est-ce qu'il est à Cannes, ce monsieur là,
non,
en ce
non, 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 non.
Est-ce que c'est un sportif?
Non, ce n'est pas un sportif.
C'est un artiste?
Ce n'est pas un artiste.
Attends, c'est quelqu'un qui est connu pour son
humour. C'est pas un artiste, puisque... Écoutez, réfléchissez un peu.
Oui, mais ça pourrait
puisqu'il
être...
Puisqu'il est chief executive...
Ah, il est vraiment, c'est pas une vanne.
Donc quand vous faites une carte de visite...
Oui, mais quand t'écris bitch dessus...
Bah oui, quand t'écris bitch, ça capte
pas sur une vanne.
Mais vous ne comprenez rien, décidément.
Allez, bois.
Attendez,
sur sa carte de visite, il explique qui il est. Il dit, I am CEO. C'est vous d'ailleurs qui...
Ah, alors, j'ai compris. Est-ce que bitch, ce serait le nom de sa boîte?
Pas du tout.
T'as bien compris.
Et c'est quoi le nom de sa boîte?
Il explique sur sa carte de visite qui il est, virgule... Connard à celui qui lit la carte de visite.
Mark Zuckerberg.
Excellente réponse de Caroline Diamant.
Ah, ça met du temps à monter, hein.
Oui, mais ça finit par monter quand même.
Pierre, vous savez qui est Mark Zuckerberg ?
C'est un homme de 28 ans qui prétend qu'il est plus riche que moi.
Encore.
Et il n'a pas le droit, étant donné qu'il est plus jeune.
Et aujourd'hui, ce jeune PDG... entre en bourse avec Facebook. Et c'est vrai, on nous raconte qu'il a fait la tournée des différents actionnaires possibles, des chefs d'entreprise, avec sa capuche sur la tête,
en suite, ouais.
Son suite, ses baskets. Et il distribuait ses cartes de visite sur lesquelles on pouvait lire « I am, des fois qu'on ne croirait pas, I am CEO, virgule, bitch, je suis le PDG connard ». Voilà.
Okay.
C'est clair maintenant? Vous avez à peu près compris?
On l'a très bien compris.
Pierre, vous voyez ce que c'est Facebook?
Je crois qu'il voit.
Mais il est plutôt Twitter lui. En fait.
Non, je pensais justement que le seul qui s'envoyait les cartes de visite, c'était Delon. Avant de se coucher, il lit une carte de visite qui a écrit « Alain Delon vous souhaite une bonne nuit ». Facebook, c'est un bouquin de fesses.
Vous allez prendre des actions parce qu'il paraît que ça peut monter. Hein.
Non, mais
ça peut descendre aussi en même temps. C'est risqué, non? Vous qui êtes un homme d'affaires, vous êtes notre businessman ici.
À qui il parle?
C'est à vous, Jérémy.
Ah, c'est à moi que vous parlez.
Ah, oui,
c'est
vous êtes
quand même... to you, bitch.
Non, ce qui est étonnant, c'est
que. Vous êtes le petit Zuckerberg, vous ici.
Oui, c'est le petit, alors vraiment petit.
Ah, si.
Non, c'est non.
Ah, si.
Bon, d'accord. Il y a déjà un annonceur qui a retiré de la publicité de Facebook en disant que c'était pas suffisamment efficace. Donc au moment où ça rentre en bourse, c'est pas très bon signe. Quoi.
Non, mais je vais vous dire.
Écoutez, c'était la minute. Économique.
Ils ont trouvé un nouveau moyen pour avoir des liquidités.
J'ai téléphoné à mon banquier ce matin.
Ah.
Et ce qui est vrai, oui.
Oui, mais on te croit, on te croit. Pas de mal. Hein.
Pourquoi c'est lui qui connaissait le tarif des filles du Crésillon?
Je ne gagne pas 1300 par mois comme vous, bitch. Bon, alors donc, j'ai demandé, il m'a dit, on peut en avoir qu'une dizaine, une quinzaine d'actions. Donc ça vaut vraiment pas la peine pour 10 actions. De s'emmerder, aller acheter un truc, puisque ça peut monter de 10%, 15%. En revanche, c'est réservé aux très gros clients des banques. Ceux qui ont un portefeuille de plus de 2 ou 3 millions d'euros, à ce moment-là, eux, on peut leur vendre des gros trucs. Mais les particuliers comme nous, comme vous, et même comme moi, c'est pas la peine d'acheter ces actions-là. Il y en a très peu en vente pour en trouver 3 ou 4 et que vous allez être... ni plus riche ni plus pauvre, avec 3 ou 4 actions vous achetez 34 euros qui en valent 36 dans 4 mois. Tu penses si c'est intéressant?
Voilà.
Non, mais tout ça c'est de l'analyse économique vraie.
Ouais. Faut en acheter quoi, 10 000, 20 000
Je sais pas, moi en tout cas ils m'ont dit vous êtes pas assez gros, pourtant je suis pas mal bon, pour avoir un nombre d'actions significatif.
Bah, auriez-vous pu acheter pour 10 000 euros les deux produits qu'on peut voir dans la presse aujourd'hui, qu'un Japonais qui a caché son nom, vous savez Stevie, a bien voulu acheter lui.
Tu m'étonnes,
il a voulu acheter, jeudi, des melons.
Deux melons au prix total
10 000 euros.
Bonne réponse de Stevie Boulet.
Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces melons?
J'ai pas compris.
Parce que là-bas, ils aiment bien le, ils peuvent mettre beaucoup d'argent, les Japonais, pour des produits d'excellente qualité.
Ah et oui, là, ils doivent être bons. Hein.
Ah bah oui, non, mais il y a une
t'as
taille.
Intérêt à avoir, et t'as intérêt à avoir un bon porto.
Non, mais c'est pas ça. Mais pour les Japonais, surtout, ils sont pas radioactifs. Donc, ça vaut au moins 10 000 euros.
Je sais pas, c'est du nord du Japon, je crois que ça.
C'est dans le nord du Japon que ces deux melons Yubari, à chair orange, remarquez chez nous aussi, sont à chair orange, ont été vendus. 10 000 euros, très précisément 1 million d'yens, si vous voulez la conversion.
Ah, bah, dis-nous ça. Oh,
non. Bah non, mais Pierre, c'est quand même non, là, mais... c'est le luxe suprême, c'est mieux que votre caviar. Hein. Un melon à 5 000 euros pièce, quand même.
Mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir un melon à 5 000 euros pièce. C'est-à-dire qu'il y a des melons, il y a des melons de Cavaillon, des Cantaloupes. Bon, que tu vas payer quoi? Tu vas les payer, tiens, pour 100 balles, je t'en donne un.
Je ne te dis pas le prix du chapeau à ce prix-là, en tout cas. On se retrouve après les titres de 16 heures.
Europe 1, on va se gêner en direct du Festival de Cannes.
Laurent Ruquier.
Toujours en direct du 65e Festival de Cannes avec Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Caroline Diamanti, Fabel Motro, Pierre Bénichou et une invitée exceptionnelle, Madame Marthe Keller, qui nous a rejoint. Mademoiselle. Pardon, Marthe Keller.
Ça commence bien, première boulette d'entrée de jeu.
Alors voilà, si je commence à me fâcher
madame,
avec vous.
Madame.
Non, mais c'est pour vous protéger de Pierre Bénichou, c'est pour ça.
Pas madame.
On doit appeler une comédienne mademoiselle tout
toujours,
au long de sa vie.
Toujours. Toujours. Toujours faire semblant de rêver.
Il voilà. Y en a d'autres qui nous disent madame et puis mademoiselle. Ah oui, on sait
toi,
plus.
Et toi, Sylvie, enfin, oui, tu préfères raison. Qu'on te dise monsieur ou mademoiselle toi?
Bah, les deux, ça dépend de l'heure.
Marthe Keller est ici à Cannes pour des bonnes raisons, parce qu'il y a des tas de gens qui sont ici pour des mauvaises.
Elle, c'est à nous.
Vous, par exemple, elle a un film qui est sélectionné dans la catégorie Semaine de la critique, en compétition donc pour la Caméra d'Or. Un film qui s'appelle Au galop, réalisé par Louis-Do de Langsin. J'espère que je prononce bien son nom. Il est d'ailleurs, lui, non seulement réalisateur, mais aussi acteur principal du film, entouré de trois femmes. C'est bien ça, Isabelle Motreau?
Absolument. C'est Louis-Do de Langsin lui-même qui joue le rôle de Paul, qui est le héros de ce film, dans lequel se jouent deux histoires d'amour. Paul tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Ada, Valentina Servi, et puis sa fille à Paul, la fille de Paul tombe elle-même amoureuse d'un jeune homme, et on va suivre comme ça ces deux histoires, mais il y a quand même un incident qui vient troubler cette belle histoire d'amour, c'est que le père de Paul va mourir, et sa maman est interprétée par Marthe Keller.
Pas la maman du père, quand même.
Non, la maman de... La maman de Paul.
Deuxième gaffe.
Non, tout de même pas. La maman de Paul. Et donc sa maman reste seule. Elle est curieuse, cette femme, parce qu'elle prend ce décès avec à la fois énormément de chagrin et en même temps une espèce de distance. Elle a une espèce de folie douce tout à fait délicieuse. C'est un personnage qui, par exemple, elle a décidé de, lorsque son mari est mort, elle n'arrête pas de répéter, de dire qu'il est très très beau comme ça, il est vraiment beau. Elle lui met des chaussettes pour qu'il n'ait pas froid dans la tombe. Elle l'expose dans son salon avec un drap spécial, brodé, etc. Elle a plein de rituels comme ça qui sont absolument étonnants. Et tout ça est fait avec une grâce vraiment merveilleuse. Vraiment.
Bah, c'est Marthe Keller. Hein.
Ben oui, voilà.
Aussi en
c'est
Marthe
Keller. Et ce rôle est quand même vraiment, c'est tout à fait ce que vous jouez d'habitude. C'est-à-dire un rôle un peu subtil comme ça, ou sous une espèce de joie apparente, eh bien, en fait, il y a vraiment une fêlure quoi, qu'on va deviner au fil du film.
Ça s'appelle Au galop. Ça a une chance alors pour
c'est un
La Caméra d'Or, Isabelle
Motreau. Ah oui, c'est un très beau film. Alors, je n'ai pas encore vu les autres films qui sont en lice, évidemment.
Ils sont beaucoup moins bien.
Mais en tout cas, celui-là est très, très beau. C'est un film à la fois fort et délicat, qui raconte bien l'amour et puis ces histoires de famille que sont toujours les morts, la mort d'un un parent, quoi.
Il faut dire, c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a des tas de films maintenant qui sont dans la sélection et qu'on peut voir en même temps en salle. Je parle là, évidemment, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Pour l'instant, on n'a pas la date de sortie de ce film, donc on ne peut pas vous dire quand vous pourrez le voir dans les salles de cinéma, mais peut-être que, évidemment, si en plus le film obtient un prix, sa sortie sera avancée. Qui sait, on peut l'espérer. Au galop, une rush, ça s'appelle. Il paraît qu'au au départ, quand vous avez accepté le rôle, j'ai lu ça dans le dossier de presse, car je n'ai pas eu la chance de voir le film comme mon amie Isabelle Motreau, qui a affronté la pluie ce matin pour aller...
Ah oui, mais ça valait le coup.
Pour aller à une projection. Il paraît que vous avez dit, il ne faut pas que j'en fasse trop une Française. J'ai lu ça...
Je ne pourrais jamais faire une Française, quand même.
Alors voilà, il a fallu réécrire le rôle pour vous,
Marc Keller. Non, on n'a même pas réécrit, parce que d'abord, je l'ai refusé, parce que d'abord, tout au début, il y avait une... Mais dernier soupçon de narcissisme, et que je ne voulais quand même pas jouer la mère de Xavier Beauvois et de lui de Longsin, je me suis dit, hein. Et en plus, qu'il y a déjà une fille de 20 ans, ça veut dire que je pourrais presque être arrière-grand-mère.
Non,
ah bah si.
Oui, mais on voit que vous êtes une mère très jeune.
Voilà. Et alors, voilà. C'était au début, c'était par narcissisme que j'ai dit non. Et après, je me suis dit, bon, ouais. Déjà, je suis tellement loin de cette distribution. Voilà. Parce que c'est une aristocrate française, qui est vraiment loin de d'où je viens. Et après, on m'a dit, bon, bref, c'était peut-être le père qui était aristocrate, et je suis sa femme qui vient d'ailleurs.
Oui.
Et voilà, alors au début, je n'étais pas très... pour mille raisons, parce que je me suis dit, ce n'est pas du tout pour moi. Mais le problème, dès qu'on mesure plus qu'un mètre 40, on vous donne toujours des rôles de bourge.
Ah, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, c'est toujours cette espèce de bourge habillée en harmonie que j'adore, mais quand même.
Et, c'est vrai que si un
et là, fait... là, c'est vraiment, elle a une fêlure, elle est quand même, elle a des petites attaques, on peut pas dire Alzheimer, mais elle oublie un peu les choses. Et elle mélange le chauffeur avec son mari. Elle remercie pour les fleurs que veut Tonya à son mari qui est mort. Elle remercie, elle embrasse le chauffeur et tout ça. C'est un peu bizarre. Et ça, j'aimais bien le côté un peu borderline.
Pierre, je suis pas sûr que Marthe Keller soit en train de vous donner envie d'aller voir le film. Je vois votre tête là.
Moi, j'aime beaucoup les films.
Dans le micro, Pierre, merci.
J'aime beaucoup ce genre de film.
Ça, c'est un bon commentaire.
Ça. Je suis pas critique de cinéma, moi, mais tout ce que fait Marthe Keller me touche.
Ah.
Enlève ta main. Non, mais...
Non, parce que j'ai été surpris. Il semblait que vous vous connaissiez quand Marthe Keller est arrivée, ou plutôt quand vous êtes revenu dans ce studio.
Moi, je me souviens très bien de Marthe Keller, mais j'ai trop changé et elle ne me reconnaît pas.
Oui, c'est Alain Delon qui est à côté de vous.
Ne me reconnaissait pas.
Mais c'était là, je suis très troublée là. C'était.
Non,
quoi?
Non, c'est rien, non. Non, c'est rien, 3 semaines à Venise, c'est rien. Non, non.
Oh non.
Le diamant de 18 carats, c'est rien, parce qu'il est dans la rue.
Mais vous avez dit, à cette époque, vous avez vraiment dit ça reste entre nous, je trouve ça dégueulasse. Vraiment pas, hein, devant tout le monde. Et à la... Non. Vous m'avez promis de ne pas en parler officiellement.
Marthe, moi qui suis plus jeune, un peu plus jeune que Pierre Bénichoux, je peux vous dire que vous êtes la dernière femme dont je sois tombé amoureux.
Oh, hey. Je peux me lever?
Ah, mais vraiment, mais ouh, je l'ai encore raconté à mes camarades.
Oui, tu nous as raconté qu'après ça avait beaucoup changé aussi.
Bah oui, elle m'a dit non.
Oui, c'est vrai, après il est plutôt passé sur Russell Crowe, enfin des trucs.
Non, mais faut avouer que vous êtes divine.
Ah, mais c'est gentil, c'est ma fête, vous faites ça avec tout le monde.
Ah non. Mais vous êtes d'une beauté.
C'est la protection qui a besoin de l'argent qui vous a payé.
Non, moi je vous trouve resplendissant.
Ah ouais, on peut pas détacher son regard de vous, je vous assure.
Non, mais attends, c'est. C'est gentil.
Elle est pas mal, ça va.
Non. Il pleut, on a besoin un peu de soleil. Merci.
Quelle beauté.
Mais Français...
pendant ce temps, mine de rien, j'emballe.
Ouais, en toute modestie.
C'est pas un malentendu. Mon
Dieu. Je ne savais pas, j'ignorais. Vous venez d'être faite chevalier de la Légion d'honneur.
Il paraît, oui.
Titre militaire?
Oui, justement.
On vous a déjà remis la médaille?
Non.
Parce que c'était le gouvernement. Vous savez qu'on a changé de gouvernement.
Ah non, je ne savais pas.
Alors, ça veut dire que ce sera un autre ministre?
Ben, c'est pour ça que j'ai attendu.
Ah! Mais alors, c'est quand même un plaisir et un honneur, j'imagine.
Écoutez, c'est très bizarre. D'abord, je n'ai pas demandé. Et je pensais d'abord toujours que c'était pour les militaires quand je suis arrivée en France. Et surtout pas pour les étrangers. C'est un peu bizarre. Mais c'est toujours très touchant d'avoir ce genre de reconnaissance. Mais j'ai reçu les militaires, comment ça s'appelle, officiers des arts et des lettres. Ouais. Et tout ça, je ne l'ai jamais cherché non plus.
Stevie aussi a reçu beaucoup de militaires dernièrement.
Non, non, mais c'est très touchant, mais je sais pas, je trouve ça bizarre.
C'est pour votre...
Vous n'avez pas envie de le porter la
non,
petite...
Non, non, non. Plus maintenant.
Parce que regardez, Pierre porte lui, hein. Regardez.
Voilà. Alors, je vous raconte une histoire. Il y a longtemps, vous n'étiez pas né, c'était Philippe Bouvard, samedi soir ou quelque chose. Il y avait Ludmila Tchernina qui était là avec une peinture en rouge. Elle était habillée tout en noir. Et moi, je suis myope. Et vraiment, sincèrement, c'était juste avant, c'était en direct. C'était juste avant que l'émission a commencé. J'ai dit, vous avez une tache. Et j'ai gratté. Elle n'a pas aimé du tout. Mais elle pensait que je l'ai fait. Non, c'est vrai. Je pensais que c'était une tache. Parce qu'elle avait la peinture rouge dans la main. Elle avait un pinceau.
Sur le blazer de Pierre Benichou, parfois, on croit que c'est la Légion d'honneur, mais c'est une tache. Hein,
c'est du tour de dos Rossini, je crois.
C'est évidemment pour l'ensemble de votre filmographie que vous avez reçu ces récompenses. Moi, la dernière fois que je vous ai vu au cinéma, je regardais là, ce matin en préparant cette émission la filmographie, c'était dans le film de Gilles Paquet-Brenner, UV.
Ah,
et c'est vrai que j'ai loupé quelques films depuis. Vous avez tourné avec Clint Eastwood entre-temps.
Au-delà.
Au-delà, exactement. Il y a eu aussi au-delà. Bouquet final que je n'ai pas vu de Michel Delgado. Il y a eu K, bien précédemment, que j'avais vu avec tourné par Alexandre Arcadi, Rouge baiser, Femme de personne. Évidemment, à chaque fois, dans chaque interview, on vous parle de Marathon Man, j'imagine.
Oui, ça, c'est un très beau film, je trouve. Et qui n'a pas vieilli, hein, bizarrement. Je l'ai vu pour la première fois depuis 20 ans, mais c'est un beau film. Mmh. Mais...
D'ailleurs, Dustin Hoffman vient de sauver un jogger. Vous avez vu ça ?
Non.
Ah oui, oui, c'était dans la presse la semaine dernière. Il était en train de faire son jogging. D'ailleurs, je crois que c'était...
Il est sorti faire des courses et le jogger a fait une crise cardiaque.
Exactement.
Devant lui. Il a appelé les secours.
Et c'est lui.
Il est même parti dans l'ambulance avec eux jusqu'à l'hôpital pour accompagner...
C'est lui qui a sauvé le...
Ouais, il a fait les premiers
le soir. Jogger. Votre premier film français, c'est Le Diable par la queue, réalisé par Philippe de Broca. Il y a eu aussi Les Caprices de Marie. On se souvient aussi de Elle court, La banlieue. Je sais que ce qui vous agace à chaque fois, c'est qu'on vous parle de la demoiselle d'Avignon.
Non, non, ça ne me casse pas, mais c'est un peu... Voilà.
Mais c'est vrai que les Français vous ont aimé grâce,
absolument,
grâce
même,
à ce feuilleton.
Oui, bien sûr.
J'ai même acheté les DVD, moi,
vous
depuis.
Vous avez bien fait. Vous avez des enfants ?
Non, pour moi, je les regarde le soir. Eh oui. J'espérais un jour pouvoir épouser Marthe Keller et j'ai fini avec Louis Vell.
C'est trop tard.
Gallo, dans le cadre de la semaine de la critique présentée ici à Cannes, un film réalisé par Louis Daud de Lanquesin, que je ne connais pas. Il avait réalisé d'autres films ou c'est son premier
c'est
long?
C'est son premier.
C'est le premier long métrage. Il a fait des courts et des moyens métrages, mais vous le connaissez parce que vous l'avez vu en fait comme acteur, parce qu'il est aussi acteur. On l'a vu dans L'Apollonide de Bertrand Bonello, dans Le Père de mes enfants de Mia Hasenlov, qui était un très beau film en 2009, et puis dans L'Intouchable de Benoît Jacquot récemment.
Alors vous êtes actrice, mais aussi metteur en scène, Marthe Keller. Je n'ai pas eu la chance de voir votre opéra mis en scène Don Giovanni, je crois que c'était au Metropolitan de New York. J'imagine que c'est un souvenir incroyable de pouvoir mettre en scène
au
Metropolitan.
Oui, c'était costaud. Ouais. Mais en même temps, je me suis dit... D'abord, j'avais fait un autre opéra qui s'appelait Les Dialogues de Carmélite. Et Placido Domingo l'avait vu et il m'a engagé après pour Washington et pour Los Angeles. Et le maître a vu ce que j'avais fait là et on m'a engagé pour Don Giovanni. Mais vraiment, c'est gonflé parce que déjà, l'œuvre, c'est l'œuvre la plus difficile pour mettre en scène. Parce que, bon, bref, on ne va pas faire un cours de musicologie, mais c'est très difficile. Et en plus, travailler au maître comme femme...
C'est incroyable.
Pourquoi
c'est
comme femme, c'est difficile particulièrement?
Parce que c'est un endroit, c'est 1000 personnes qui travaillent toute l'année. On n'entend rien?
Non, c'est Pierre Benichou qui parle à côté
de micro. Ah bah, il parle tout le temps. Mais maintenant, il dessine.
Et ces 1000 personnes sont particulièrement misogynes?
Non, c'est l'Amérique... On peut être viré tout de suite, d'un jour à l'autre, et les gens ont peur. Et quand on a peur, on devient agressif, on devient insécure, on devient... Et il y a une espèce d'électricité qui régnait dans cette maison, qui a maintenant changé parce qu'il y a une autre direction. Mais c'était vraiment très, très dur. Et voilà, et affronter moi quand je suis allée sur la scène pour leur dire des choses, je me suis dit, ben, pourquoi un petit pas coupé? J'avais l'impression que je joue un rôle d'une actrice qui fait semblant d'être metteur en scène, parce que je ne suis quand même pas metteur en scène. Mais il se trouve que la première mise en scène que j'ai faite avait un prix de la meilleure mise en scène de l'année. Ça m'a aidée, ça m'a donné un peu de courage de continuer. Mais je travaillais une année de préparation pour faire des recherches, tout ça, parce que je n'ai pas du talent comme ça, il faut travailler. Alors, depuis là, on me propose beaucoup de choses, et là, je vais peut-être faire Pélias, mais quand ça marchait, ça a l'air gonflé, mais ça avait beaucoup de succès. Et quand ça marche, après, on a peur de on peut que tomber,
bien.
Voilà. Et en plus, j'avais quelqu'un avec moi, Yves Lefebvre, qui était extraordinaire, qui m'a beaucoup aidé parce que je connaissais absolument rien de la technique, du décor, tout ça. Bon, c'était une expérience.
Grosse aventure.
Oui, grosse aventure. Et moi, c'est bien recherché.
Les gendarmes à Saint-Tropez, j'avais adoré.
Non, attends, c'est pas le même.
Ah, pardon.
Au galop.
Oh, on est bien européens.
Écoutez, ça vous a permis au moins de retrouver Pierre Bénichoux.
Ah oui, quand même.
Ouais. Non, c'est quand même inouï.
Retrouvé, vous savez, parce que nous, on se voit souvent.
La question qu'a posée Isabelle est étonnante. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour une femme? Est-ce qu'ils sont tous misogynes? Mais c'est justement ça, l'âme du féminisme. C'est que la misogynie est une chose tellement inhérente, tellement courante, qu'il faut se battre contre tout le temps et ne pas dire les hommes et les femmes sont traités de la même manière. Les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière.
Mais d'accord, mais
c'est
pourquoi
un scandale.
Aux particulièrement,
c'est,
c'était ça ma question.
C'est normal qu'elle dise pour une femme c'est difficile.
Mais pourquoi aux
mecs? C'est plus difficile pour une femme.
Non, être chef pour une femme. Être femme, il n'y a rien de plus beau. Mais être chef, et quand vous êtes maître en scène, c'est vous qui décidez tout. C'est plus difficile.
Pierre, je vous laisse prendre le numéro de Marthe Keller.
Et non.
Comment il ça, a, non parce qu'il a déjà...
Non, elle vise plus haut.
Et vous pourrez aller la voir bientôt, je l'espère, dans Au galop, un film de Louis Daud de Langsa en compétition ici à Cannes dans le cadre de la semaine
qui
de la critique.
Qui est merveilleux maître en scène, je dois dire.
Mais il est portugais, brésilien, français,
là,
il est quoi?
Ils sont nuls ici, non, quand même.
Quoi?
Il est français, c'est de la vieille famille française.
Louis Daud de Langsa.
De Langsa.
Il est portugais.
Je crois que c'était Langsa. Je ne suis pas vraiment français. Je suis français depuis pas longtemps. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas français depuis longtemps. Alors, de Langsa, ouais, d'accord. Ouais. Moi, je croyais des Langsa. Je croyais que c'était un portugais. Mais d'accord, excusez-moi. Marthe, nos retrouvailles sont orageuses.
C'est foutu, là, c'est foutu.
Non, c'est pas foutu parce que j'ai une botte secrète.
J'ai honte parfois.
Oui, c'est vrai.
Mais quand même, je suis très fier qu'on vous ait reçu dans notre émission cet après-midi. On peut encore applaudir et remercier Marthe Keller.
Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Morgane, bonjour Manuel.
Bonjour.
Bonjour.
On vous a un peu fait patienter puisque nous avions Marthe Keller qui est passée dans notre studio. C'est la vie de Cannes, c'est la vie des stars. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je suis désolé de vous avoir fait passer un peu en retard derrière une star, mais j'espère que vous ne m'en voulez pas, Morgane.
Ah non, pas du tout, au contraire.
Bon, et vous non plus, Manuel?
Non, pas de soucis.
Morgane est à Bordeaux, Manuel à Douai. Que faites-vous dans la vie, Morgane?
Ben, j'ai fini mes études de médecine et là, je prépare le concours pour avoir un poste de médecin, voilà.
Oula. Vous avez une spécialité?
Eh bien, c'est avec ce concours que je vais choisir ma spécialité, voilà.
Et quelle spécialité allez-vous choisir ou avez-vous envie de choisir?
Le gratin de courgettes.
Quelque chose qui s'apporte à l'infectieux, peut-être à la proctologie, si jamais vous en avez besoin.
Proctologie, on connaît...
Tout va bien.
On connaît deux, trois personnes, oui.
Ouais, tout va bien.
Surtout une...
J'ai pas osé rappeler le lieu de naissance de Marthe Keller qui est née à Bâle, mais voyez. mais voyez, on reste dans le même dans le même secteur. Morgane, un petit message à faire passer?
Oh ben, je souhaite un petit bonjour à ma mère qui m'écoute dans la voiture en ce moment.
Très bien, sur la route. Et vous, Manuel, que faites-vous du côté de Douai?
À Douai, j'y habite, et sinon un peu plus loin, en région parisienne, je fais la recherche.
De la recherche d'emploi ou vous avez trouvé?
Non, j'ai trouvé. Enfin, je vais aussi chercher un emploi bientôt, mais je fais la recherche en informatique.
Bon, ah ben, ça vous intéresse alors l'histoire de Facebook qui entre en bourse?
Ouais, pas plus que ça.
Pas plus que ça. Très bien. Eh bien, j'ai fait un bide. Manuel Morgan, vous allez jouer pour un séjour à Marseille, pour l'hôtel Pullman Palm Beach, deux nuits dans le sud, à 10 minutes du Vieux-Port et du stade Vélodrome. Vous aurez une vue imprenable, non pas sur les matchs de foot, mais sur les îles du Frioul, le château d'If et le parc naturel des Calanques. Vous êtes prêts à jouer ?
Prêt.
Maxime et Geoffrey se sont battus en discothèque ici à Cannes pour Marie. C'est Nice Matin qui nous raconte ça dans la presse aujourd'hui. Maxime et Geoffrey se sont battus en discothèque, c'était avant-hier soir.
Deux ex de Secret Story.
Oui. Deux ex de Secret Story. Bonne réponse de Manuel.
Dis donc.
Alors là, Morgane, vous êtes fait griller. Hein.
Eh bien, je savais, mais j'attendais que vous finissiez votre réponse.
la question, vous voulez dire. Oui.
Exactement, la question.
Ah, mais oui, c'est vrai que je n'ai pas tout à fait posé
mais
la
oui,
question.
Mais oui,
c'était quoi la question?
C'était
quoi
la question?
La question était dans l'énoncé. C'est vrai que.
C'est qui?
On se demandait tout ce qui était. Enfin, vous demandiez tout ce qui était, Maxime et Geoffrey. Donc, la question était effectivement déjà. Qu'est-ce qu'il y a?
On ne me dit pas qui c'est, moi. Tu vois, j'ai plus un poil de sexe. Qui c'est, Pouf, Vladimir pas qui répond Geoffroy. Geoffroy, il s'appelle
Geoffroy. Maxime.
C'est pas un prénom, Geoffroy.
Oh putain.
Si, c'est très beau.
Le hasard, l'article d'ailleurs dans Nice Matin ce matin est très très bien écrit. Hein, je veux dire, première soirée, premier grabuge.
Waouh, ça fait mal déjà.
Déjà, le Festival de Cannes 2012 fait des étincelles. Ça s'est passé mercredi soir du côté de la Pointe Croisette où deux night clubs éphémères ont poussé le temps de la quinzaine. Tandis que les Bruce Willis et Bill Murray avaient brillé par leur charisme et enchanté la soirée d'ouverture de la compétition, deux autres pseudo-stars, un temps sous les projecteurs, se sont illustrés de manière plus cavalière. Le hasard faisant aussi parfois mal les choses, deux ex-candidats de l'émission Secret Story de TF1, Maxime Duclou, tropézien de la saison 4, et Geoffrey Crousilla.
Geoffroy ?
Montpelliérain de la saison 5.
Dès qu'on met les noms de famille, ça marche moins bien. Hein.
Se retrouvèrent ce soir-là dans le même club cannois.
Aïe, aïe, aïe.
Attendez le suspense.
Oh la vache.
Là, c'est très bien écrit. Jusque-là, pas de quoi fouetter un chat.
Et en effet, c'est bien écrit.
C'est bien écrit. Hein.
Quoique.
Ah.
La présence d'une tierce personne dans cette pathétique soirée.
Tierce personne.
Marie. Également ex-candidate de l'émission.
Oh, voilà. Et ex-petite amie de Geoffrey.
Et ex tout court, vous connaissez tout. Vous.
Ah, ils sont dans les anges de la télé-réalité de saison 4 en ce moment.
Oh, vous les avez engagés?
J'en connais que deux, je connais pas Maxime, je connais que Marie et Geoffrey. C'est déjà pas mal.
Et voilà, et selon la rumeur publique, elle serait tombée, Marie, dans les bras de Maxime.
Oh non,
non,
non.
Quelle horreur.
Il semblerait bien que le Montpelliérain est conduit par la belle, n'ayant pas fait le deuil de sa rupture.
Ouais.
Vie rouge dès qu'on lui rappela cette amourette médiatique passée. Sur fond de jalousie et de rivalité amoureuse, la moutarde serait, selon la version...
Hey, pardon, hey, mais c'est Maïté qui a écrit l'article.
Ah non, non, c'est génial.
Il y a toutes les expressions possibles.
Moi, j'adore cet article.
Ils sont régalés.
La moutarde serait, selon la version de certains clubbers présents,
montée
au nez de Geoffrey. À la vue des deux autres, le ton qui monte, les échanges de mots et de noms d'oiseaux.
Et la Maxime son gourdin.
Et c'est le festival de la claque.
Non.
Le festival de la claque.
C'est écrit ça.
Même pas du...
Puis des coups. Un seul round. Et dans cette course à la blonde, c'est le tropézien qui l'emporte. L'amoureux déchu est au tapis avec ecchymose et plaie au visage. Tout ce petit monde se fait finalement vider de l'établissement et se sépare plus fâché que jamais au bout d'une soirée ratée et un dépôt de plainte à la clé. Suite, après la pub. Cannes, bagarre entre deux ex-candidats de Secret Story.
Alors, c'est pas alors, fini. On en était à la moutarde montée au nez.
Montonnée de Geoffrey.
Je reviens sur ce titre de Nice Matin. Cannes, bagarre entre deux ex-candidats de Secret Story. Je vais pas vous relire tout l'article.
Si, on aimerait bien.
Mais je dois vous lire la dernière phrase parce qu'elle vous intéresse, Jérémy Michalak. Juste après nous avoir narré toute la bagarre, toute la rixe qu'on a pu voir dans cette discothèque à Cannes entre ces différents candidats de Secret Story. La dernière phrase, c'est « Peut-être de quoi donner des idées à un producteur pour développer un nouveau concept de télé-réalité. »
C'est bien, ils sont, ils sont à la page, Nice, ce matin. Hein, c'est bien.
Ben oui, vous pourriez faire des bagarres de...
Oh, mais il y en a déjà.
Des combats.
Oui, des combats, oui. Enfin, c'est, ils les provoquent tout seuls entre eux, donc c'est pratique.
Ah, ils se bagarrent dans vos émissions aussi.
Ils se bagarrent gentiment, ils s'engueulent comme tout le monde, quoi, comme des gens qui partent en vacances ensemble, mais un peu plus violemment que n'importe qui, quoi.
Pierre Ménichoux, il y a un truc qui vous a fait marrer dans l'article, c'est quoi?
Oui, c'est au début de l'article, il dit il y avait Bruce Willis et je ne sais quel autre
star. Bill Murray.
Bill Murray. Et deux autres pseudo-stars, comme si Bruce Willis et Bill Murray étaient aussi des pseudo-stars.
Ah oui.
Tu comprends, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui. Il aurait fallu dire et deux pseudo-stars. Ah oui. Et oui, pas oui, deux autres pseudo-stars. Sûr. Ah oui, vous avez raison, c'est pas
oui,
sympa.
Oui, c'était bon, la seule chose marrante dans l'article. Vous avez passé ce silence. Parce que le reste, la moutarde, selon les interlocuteurs, lui serait montée au nez. Il n'y a qu'à lire tous les journalistes sportifs, ils écrivent ça.
Ah
ils
oui.
écrivent comme ça. Gentil.
Le voyage de François Hollande aux États-Unis. François Hollande, normalement, là, alors on vous parle, doit être en train de discuter
avec Barack Obama.
Et on nous dit, hein, c'est la presse, qu'ils devraient bien s'entendre parce qu'au fond, François Hollande étant un président normal, il ressemble à Barack Obama, qui lui aussi est un président normal. D'ailleurs, nous dit-on, la devise du président américain, c'est, je vous passe les deux premiers mots, car c'est à vous de les deviner, 1-1 with Obama, avec un, Obama.
Be normal with Obama?
Non.
Change with Obama.
Non.
Ah, il manque deux mots.
C'est bi. Le premier, c'est bi.
Deux mots, il manque deux mots.
Est-ce que le premier mot, c'est bi?
Non.
Quelque chose.
La devise du président américain, qui ressemblerait donc à la normalité bi. De François Hollande.
Bisexuel ou non. Obama?
Non, justement, c'est pas bi.
Mais non.
Change your...
No.
You and me?
Non.
You and me?
Non. Ça commence par no.
No power.
No change.
No
rich.
No truck.
No problem.
Non.
No difference.
Alors ça, c'est jamaïcain, ça.
No problem, c'est bien parce que c'est l'esprit de la devise. No d'accord. Problem with Obama. Obama. Mais ça sonne pas assez.
No trouble.
No suicide. Non. No suicide avec Obama.
Il n'y a pas de souci.
No suicide avec Obama.
Ça, oui, ça rythme pas bien. Oui. Ça clash pas bien.
Ah, ça doit se terminer en A, alors.
Eh oui.
Eh oui, no.
No tracas with Obama.
Mais non, mais presque.
No blabla.
Mais non.
No
caca.
Non.
No Bama.
No
Bama.
No Bama.
C'est ça, gros Bama.
Allez, no. C'est bien parce qu'on dirait qu'elle trouve quelque chose d'extraordinaire.
Je suis pas très bon, mais eux, ils sont nuls. No cinérama.
Non.
No wana.
Non. Réfléchissez.
Eh oui, c'est ça le problème.
Un synonyme.
De problème.
De problème. No.
Trouble.
Non.
Worry.
No difficulty.
No tracker.
No
tracker ou
c'est
Obama.
En une syllabe.
En une syllabe. Ah oui.
No job.
No job.
No job. Ah
ouais, ça arrive.
C'est une bonne devise, ça. No job with Obama.
No clash. No clash.
C'est un bon programme.
No clash.
Mais non,
ça arrive.
Ça termine en A. Écoute, arrête.
Je cherche, moi, monsieur.
No kata.
Et tu sais le pire, c'est que je l'ai trouvé.
No kata, non.
Non.
No.
Je vous ai demandé de ne pas souffler.
Non drama.
Ben oui, mais ils voulont souffler.
Ah
dans
non,
le public.
Je vous jure que non.
No drama with Obama. Bonne réponse de Caroline Diamant.
J'ai pas entendu.
Non, mais avec nos casques, on n'entend pas.
No drama with Obama. Ça rime mieux,
ouais,
voyez.
C'est bien ça. Mm-hmm. Ouais. Ça me balance. Ça me fait penser à Mary J. Blige.
Quoi?
No drama, c'était un album de Mary J. Blige.
Mary J. Blige.
J. Blige. Tu vas parler.
No,
c'est intéressant.
No drama with Obama. On devrait trouver l'équivalent pour François Hollande.
Ah, alors ouais, attends, on va trouver.
Un truc qui rime avec Hande.
Ah, bah oui, oui.
Bah ouais, moi je connais qu'un, je suis désolé.
Pas de glande avec Hollande.
Quoi?
Pas de glande avec Hollande.
Ouais, non. Pas terrible ça.
Pas de glande avec Hollande.
Ah, t'étais plus inspiré par Sarkozy, y a pas à dire. Pas de glande avec Hollande. Pas de viande avec Hollande.
Non, c'est pas terrible. Non, c'est
avec Hollande. Ah, ouais.
Du gouda avec Hollande.
Ça rime. Attendez, qu'est-ce qu'il y a comme mot en Hande?
Parce que on peut pas laisser les Américains avoir une si bonne devise. No drama with Obama, sans trouver une.
Non, mais excusez-moi, la langue anglaise a ce charme qui fait que c'est plus facile de trouver des slogans. Ils ont souvent des mots courts, c'est plus succinct et donc ça sonne
pas
bien.
Pas d'offrande avec Hollande.
Parce que là, c'est pas mal.
Ah, Powerland avec Hollande.
Ah, c'est pas mal aussi.
Oui, Aqualand avec Hollande.
Voilà.
Always you band with Hollande.
Ah non, je bande avec Hollande.
Enfin, écoutez.
Ouais, c'est la gauche dure.
J'aurais pas osé dire j'ai un gros zizi avec Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'il est de gauche, on peut se moquer de lui.
Salopard.
Ça va bien se passer. Vous qui quand même êtes le meilleur observateur parmi nous, Pierre, de la vie politique étrangère entre les Américains et François Hollande. C'est que le mot socialiste, c'est quasiment une injure là-bas aux États-Unis.
Oui, mais il y a plus important, c'est que jusqu'à présent, Sarkozy a fait toute sa politique étrangère sur la rigueur, essayer de réduire le déficit, alors que les Américains n'étaient pas d'accord. Les Américains voulaient faire la relance. Ils voulaient essayer de retrouver une situation plus stable économiquement grâce à la relance, c'est-à-dire augmentation des salaires, augmentation des trucs comme ça. Et toute l'Europe allemande, franco-allemande, était contre. Comme Hollande a dit qu'il était pour la relance, Obama le reçoit à bras ouverts. C'est pas une question de boogie-woogie. C'est ça, la politique. Ouais. Non, mais parce que ça serait pas mal comme il a l'air d'un danseur, Obama, quoi. On ferait très bien avec les maracas, la rumba. No drama.
Ah, ben ça, c'est
with
pas
Obama. Raciste. No drama. With Obama. Tu comprends? Ça serait bien.
Et Hollande, il danserait quoi, alors?
Moi, je dis une chose à notre confrère d'Europe 1, Alexandre Adler, tiens-toi bien.
On va te gêner en direct de Cannes cet après-midi avec Titoff, Stevie Boulet, Isabelle Motreau, Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Jérémy Michalak et bien entendu Laurent Ruquier.
Et puisqu'on était dans la politique étrangère avec la visite de François Hollande aux États-Unis, restons dans la politique étrangère grâce à cet article du Figaro qui nous emmène en Corée du Nord. Et on apprend là-bas en Corée du Nord que la crise alimentaire qui sévit en ce moment, une crise alimentaire aiguë dans certaines provinces de Corée du Nord, crise alimentaire déclenchée par la réforme monétaire conduite l'année dernière par les autorités, une hausse brutale des prix, cette crise alimentaire a des conséquences assez incroyables en Corée du Nord. Quelles conséquences?
Déjà, ils peuvent pas.
Les gens sont maigres?
Non,
ils ont faim.
Les gens deviennent cannibales.
Ils se bouffent.
Ils se bouffent les uns les autres.
Le cannibalisme, bonne réponse de Pierre Bénichoux.
C'est incroyable, ça.
Non, mais attends, c'est-à-dire...
On se mange.
Ça me paraît très clair, c'est-à-dire, Isabelle.
Non, mais ils tuent pour manger.
Exactement.
S'ils mangent les morts sans tuer, c'est déjà pas mal.
C'est pas pareil, déjà.
L'existence de plusieurs actes de cannibalisme récents en Corée du Nord confirme la fragilité de la situation alimentaire en Corée du Nord.
Et la bonne santé des dents, hein, parce que c'est dur. <le truc.
rire> Quelle horreur. Vaut mieux pas que tu partes en vacances dans le coin, Caroline. Hein.
Ah oui, ça ferait un bel arrivage.
Ah ouais.
Tu nourris un village
pendant 5 ans.
Non, alors très honnêtement,
la bonne soupe.
J'avais pas l'intention d'y aller avant, mais là encore moins, effectivement.
Ah mais c'est terrible. Alors, certains tentent de minimiser un peu, hein, parce que ce sont évidemment des réfugiés de Corée du Nord qu'ils arrivent en Corée du Sud, témoignent ces faits. Alors évidemment,
dès qu'ils arrivent, ils se tapent un McDo. Après, ils témoignent.
Alors évidemment, on ne sait pas si ce qu'ils racontent est vraiment vrai.
Oui, puis il y a bouffer, hein.
Ils se sont rendus compte parce qu'il paraît qu'il y avait un Coréen du Nord qui avait un bout de chaussette dans les dents coincé.
Il ne faut pas surestimer l'importance du cannibalisme en Corée du Nord, dit un témoin. C'est un sujet tabou, mais je ne crois pas à une pratique à grande échelle et de façon organisée. Ben non, encore heureux.
Heureusement. Oui.
Ce sont des actes isolés. Oui. Voilà. Quelqu'un raconte « La faim m'a fait perdre la raison. J'avais entendu dire que la chair humaine était meilleure que le porc et je me suis dit que nous allions tous... »
Ça dépend.
Je me suis dit que nous allions tous mourir de toute façon. C'est une mère accusée par les agents du régime d'avoir dévoré sa fille de 9 ans.
Ah, elle a mangé sa gamine.
Qui raconte...
Mais elle était déjà morte.
Elle
l'a pas tuée
pour ça.
Elle
l'a
pas tuée
pour ça. Non, mais comme elle l'aimait beaucoup, elle l'a mangée petit à petit seulement.
Elle est morte qu'à la fin.
Non, mais c'est
une bouchée pour papa. une bouchée pour maman.
Non, mais vous croyez que c'est possible, vraiment?
Mais oui, tout est possible.
Ah oui,
l'homme est l'animal le plus cruel, alors, moi je le dis toujours.
Mais ça veut dire qu'il ne reste plus d'animaux, il n'y a même plus de chats ou de rats.
Ah non, le mec qui bouffe la tête.
Parce qu'avant de manger les hommes, tu peux manger un chat ou un chien.
Mais tu sais, quand il y a
qu'est-ce
eu les
que vous avez dit, Pierre?
Un mec qui bouffe un chat est un cannibale.
Il n'a pas dit exactement ça.
Vous mais... avez dit une chatte, j'ai entendu. J'ai bien entendu.
Ah, c'est bon genre. Mais bah, oui. il faut pas bouffer ce genre de truc. Il faut pas. Non, mais il y a aussi, il y en a qui exagèrent, hein. Tu te fais bouffer un pied dans l'autobus, il n'y a pas de quoi non. Il n'y a pas de quoi non plus crier au cannibalisme. Tu dis, tiens, j'ai perdu un pied. Non, tu vois, c'est pas... Non, mais la Corée du Nord, c'est un pays très, très dur. T'as des rares, t'as des seuls pays communistes, comme vous le savez.
Oui.
Kim Il-sung, hein? Quoi? Je ne sais pas tout ça. C'est marrant. Je ne sais pas si je suis pas... Je suis à ma place dans cette émission.
Pour dire oui, il ne faut pas bouffer sa chatte, ça, c'est sûr que vous êtes à votre place.
Pour le reste... comment dire?
Si vous aimez les chats, bouffez la chatte des autres.
Non, écoutez,
oh, moi, je suis à deux doigts.
Tu vois, même si on parle de politique...
Ça dégoûte Stevie. Hein,
ah bah oui, mais...
Il préfère largement le saucisson.
C'est sûr que...
Voilà. Ça, c'est
la morteau.
Voilà. Je crois qu'on l'a vu bouffer un mec hier.
En 2011,
il y a eu un début
merci,
de cannibalisme
merci,
à
la chambre de Stevie.
Merci.
En 2011, qui pouvait-on voir dans le télécrochet américain Platinum Hit?
Hit
Pamela Anderson.
Donna Summer.
Donna Summer, ah. Bonne réponse de Titoff.
En quelle année?
En 2011.
Elle était dans le jury?
Elle était dans le jury. Et oui, elle apparaissait dans le télécrochet américain Platinum Hit. Hélas, elle est décédée, on l'a appris hier.
À l'âge de 63 ans.
Quel était le surnom qu'elle détestait? Vous avez vu ça dans le Parisien?
Gros Lolo.
Quoi?
Gros Lolo.
Bon, ça, c'est sûr qu'elle devait le détester, mais je suis pas sûr que ce soit.
On n'a jamais appelé Donna Summer Gros Lolo.
Attends, c'est pas ça qui se chantait? Ah non, je confonds avec Sabrina.
Ça a un rapport avec un de ses chansons.
C'est sûr que Samantha Fox.
Avec une de ses chansons.
Donna Summer, c'est une super chanteuse.
Ah, elle aimait pas qu'on l'appelle que.
Winter, Summer, il y a un rapport avec ça?
Non, pas du tout.
Il y a un rapport avec Winter.
Black pas, parlez pas tous en même temps, merci, oui.
Il y a un rapport avec Black
Non, du tout.
Un rapport avec un titre de ses chansons
Avec un titre, non, mais en tout cas avec le fait qu'elle ait chanté.
Ah, la reine du disco.
Non.
Elle aimait pas qu'on l'appelle.
Non,
comme
parce
ça.
Que ça, elle a été, c'est incontestable, ouais. La reine du disco. En revanche, elle a chanté cette chanson Love to Love You Baby, qui est une chanson assez incroyable.
Il y a un appel au sexe.
Exactement,
incroyable.
Parce que cette chanson-là, d'abord, était étonnante par sa durée. Elle durait 17 minutes, la chanson.
Non.
Ah oui, 17 minutes.
C'est des gémissements. Comme
I
ça.
Love to Love You Baby.
On peut pas la passer, qu'on dorme un peu.
Ça vous ferait pas dormir, Pierre, puisqu'on y entend dans cette chanson la simulation de 22 orgasmes.
Oh, qu'est-ce que c'est pour moi?
En 17, en 17 minutes
22 orgasmes.
Ouais. Non.
C'est la chanson la plus hot. Et c'est à cause de cette chanson qu'on lui a donné un surnom.
The Orgasm Queen?
Hot.
Presque.
La cochonne du disco?
Non.
La chasse? Il y a Queen dedans?
Non.
Il y a orgasme
non,
dedans?
Non. Imaginez, alors.
Ah, pourquoi presque?
Qu'est-ce que c'est qu'un orgasme, en fait?
Un cri.
Point G, on l'appelait.
Du plaisir. C'est du plaisir. Une jouissance.
Elle n'aimait pas qu'on la surnomme.
Fuck.
Non, alors, moi j'ai la version française hein, du surnom.
À traîner.
Non.
Là, ça, se venge,
c'est bien, Stevie. Une femme qui est jouée est une traînée.
La traduction de plaisir, non?
Non,
de désir.
Baise.
Desire.
Non. Qu'est-ce que c'est qu'un orgasme?
On aimerait bien savoir.
Justement, je ne sais pas. On m'en parle toujours.
Ah, du plaisir.
Et je ne sais pas.
Je vais vous donner la réponse parce que vous ne trouverez jamais. Elle n'aimait pas qu'on la surnomme le sexe chantant.
C'est affreux.
Et alors, vous vouliez qu'on réponde quoi à la question? Qu'est-ce que c'est qu'un orgasme? C'est pas un sexe qui chante.
Bah un peu quand même.
Et en anglais c'est quoi?
Ah, alors vous avez raison, on vous aurait jamais donné la réponse. Un sexe qui chante.
Bah, qu'est-ce qu'il fait?
Quel poète, Laurent.
Un orgasme, c'est un sexe qui chante.
Qui chante par la bouche, parce que c'est aussi. Parce que c'est.
De toute façon.
Ça sort par où ça peut sortir?
De toute façon, c'est.
Ça peut pas sortir par le bas, alors ça sort par le haut.
Ouais, c'est. Non, ça peut sortir, mais comment dire, l'air est moins mélodieux, quoi.
Et moi, je m'en fous.
C'est vrai.
Je suis pas choqué par ça, parce qu'on peut parler de tout, mais il paraît que c'est très surfait.
Ouais, mais quand même.
Et c'est comment en anglais?
Très surfait.
Last Dance.
On perd le contrôle.
Sur Europe 1.
Ah,
un des tubes, mais ça dure pas 17 minutes, je vous rassure. Un des tubes de Donna Summer. So let's dance. Last day.
Ré-Mi, Fa-Si.
Do, Ré-Mi, Fa-Si. Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, salut à tous.
Un quiz spécial Cannes.
Oui, je vous propose d'identifier 10 voix. Ce sont des acteurs et des actrices qui ont eu chacun un grand prix, un prix d'interprétation féminine ou masculine, mais qui ont aussi chanté par ailleurs.
Ils sont repartis avec un prix de Cannes.
Voilà, ils ont tous eu un prix à Cannes.
Et ils chantent. Bon, il y en a, on imagine déjà qui ça peut être, mais certains vont être un peu plus difficiles à identifier. C'est parti.
Sasa megalo sunnolana yinun levendes yachari pirea.
A tant rêvé, j'ai gâché mes 20 berges. La gamberge, la gamberge. Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus.
T'es qu'un idiot, demande-moi où, moi mon avis. Les jeunes filles ont besoin de romance et parfois d'insomnie.
Ce soir, j'ai quartier libre, je vais pouvoir vivre comme je vivais avant toi. Ça va.
C'est déjà une heure, je vous abandonne mes frères pour mes ringards et votre pilier de comptoir. Même le flipper est saturé de vos rêves et claquerait pas pour un million de dollars.
Crois pas que tes souvenirs me gênent et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver.
Comme là-bas qui fume la weed. Oh, Akhlana, des mots, des rêves, comme Hamid, Hamid, la weed. T'es sweet, la weed.
C'est par ici, Dieu vous le rendra. C'est un ami.
La chance.
Mamie, aujourd'hui, spectacle gratuit.
Pourquoi tu t'arrêtes?
Il y en a un particulièrement difficile.
Ah ouais.
Les autres, normalement, sont tous trouvables.
Alors, il y a Mélina Mercouri.
Ça, oui.
Jean-Yann.
Oui.
Ouais. Isabelle Huppert.
Isabelle Huppert. Isabelle Adjani.
Dujardin.
Jamel Debbouze.
Jamel. Jamel Dujardin.
Bjork.
Ouais. Bjork, bravo.
Depardieu.
Et Sarah Bernard. Oh. Bah, c'est la ville qui avait une canne, c'était quand même.
Il y avait Depardieu aussi.
Ah bon?
S'il y en a une qui avait une canne, c'était bien elle.
Oui, c'est bien.
Tu manques de respect à cette grande actrice.
Ah bah j'adore.
Depardieu, oui ou non?
Depardieu, bravo. Oui.
Et il nous manque quoi?
Il nous manque
le 5 et le 9.
Il vous en manque 2. Pourtant, vous, vous devriez reconnaître. Mais forcément, vous étiez sur votre téléphone.
Pas du tout, pas du tout. Pourquoi moi, je devrais reconnaître?
Ah, parce que vous devriez
reconnaître. Maëwen?
Non, non, non.
Stommy Bugsy?
Non, il en manque 2. On va donner la réponse.
Marion Cotillard?
Non, non, non. La réponse
Nicole
en chanson.
Nicole Garcia?
Non, Fental?
Non, non, non. Alors, la première, elle a eu effectivement un prix à Cannes en 60 avec Les Enfants du Péré. C'était bien Mélina Mercouri.
À t'en rêver, j'ai
gagné. Jean-Yann. Avec Nous ne vieillirons pas ensemble à Cannes en 72.
Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus.
T'es qu'un idiot.
Adjani. Adjani récompensé pour 2 films, Quartet et Possession, ici à Cannes.
Besoin de romance et parfois d'insomnie.
Ce soir.
Ça, c'est Depardieu.
Depardieu, récompensé pour Cyrano à Cannes.
Comme je vivais.
Il chantait cette chanson dans Cyrano?
Non.
Ah bon.
C'est déjà une heure, je vous abandonne mes frères.
C'est ça que je devais trouver?
Oui. C'est Daniel Auteuil.
Ah ouais.
Non.
Daniel Auteuil.
Il est meilleur acteur quand même. Hein.
Récompensé ici en 96 pour le 8e jour. Bjork.
Bjork.
Bachelorette, super morceau.
Et c'était pour Dancing in the Dark qu'elle avait été récompensée.
Et cours, cours jusqu'à peine.
Alors c'est pas
ça, c'était Isabelle Huppert.
Ah, c'est Isabelle.
Trouver.
Comme là-bas qui filme bien, oui.
Jamel. Isabelle Huppert, récompensée pour la pianiste. Jamel pour Indigène.
Ouais.
C'est la prochaine que vous n'avez pas trouvée.
Sophie Marceau.
Léo.
Juliette Binoche. Il chantait Punishment Park.
C'est un ami.
Elle a été récompensée en 2010 pour copie conforme. Et évidemment, en terminé, vous l'aviez reconnu par Jean Dujardin, récompensé l'an dernier pour The Artist. C'est amusant votre quiz.
Oui,
Serge.
Je précise que Juliette Binoche, elle faisait les chœurs et elle faisait une petite voix dans une chanson d'Indochine. Voilà. Ah, elle avait prêté son concours.
Ah oui, alors là, c'était
dans les années 80. Ah ben, il fallait que je vous trouve quand même un petit piège. C'était trop facile sinon.
Bah, tu parles que c'était facile.
Vous en avez trouvé 8 sur 10.
Oui,
c'est facile quand on a la réponse.
Bah, t'écoutes même pas, toi.
C'est vrai, vous n'avez même pas joué, vous, Pierre. Ah
oui. Moi, j'ai trouvé Jean-Yann, je me suis dit, c'est le seul que les gens connaîtront pas.
Ah oui. Ben non, tu vois.
Alors, j'ai dans un agrabage, la gamberge, j'aime beaucoup cette chanson. Mm. C'est une belle chanson, ça, Jean-Yann.
Qui était aussi chanté par
Philippe. Bon, chers auditeurs.
Qu'est-ce qui se passe, Pierre?
Il se casse.
Je sais pas, il s'en va.
Pierre, vous vous ennuyez avec nous?
Pas vraiment.
Il faut le dire quand même.
Non, non, pas du tout, parce que il y a des regards dans la salle là.
Qu'est-ce qu'il y a comme regard?
Il y a des regards dans tous les yeux aujourd'hui. C'est pas incroyable.
Je signale d'ailleurs qu'il y a une dame qui est venue occuper la chaise vide qu'il y avait au premier rang, Pierre.
Oui, oui.
T'en fais pas qu'il l'avait repéré. Ouais.
J'adore sa coiffure en bouton de soupière, ça s'appelle. Oui ou non?
C'est un compliment, ça?
Jamais entendu cette expression.
Mais ça s'appelle. T'as jamais entendu en bouton de soupière?
C'était la coiffure qu'on avait en 1900 à peu près.
Ah, oui, bah oui, mais est-ce que.
Elle a bien fait de s'asseoir, cette dame.
C'est une coiffure futuriste.
C'est très joli,
une coiffure qui s'appelle comme ça. Il y a des gens qui sont coupés en brosse, et pourtant en 1830, ils étaient déjà coupés en brosse. Oui. Alors arrêtez avec l'âge.
Oui, mais disons que l'expression.
On se mettre à la cigarette, ça.
Madame, ne vous affolez pas. Nous avons des vigiles qui sauront vous protéger. On se retrouve après les titres de 17h.
Europe 1, on va se gêner. En direct du Festival de Cannes.
Laurent Ruquier.
Toujours avec Pierre Bénichou, Isabelle Motreau, Titoff, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, en direct de la Croisette avec un public toujours aussi chaleureux. 65e Festival de Cannes, nous sommes dans le salon Martin Barrière de l'hôtel Majestic qui nous accueille si gentiment depuis 48 heures. Delphine et Nicolas, bonjour. Peut-être vous aussi pourrez-vous bientôt profiter d'un joli séjour pour une semaine mieux que nous. Bon, une semaine carrément dans un appartement, Lagrange Prestige, sauna, hammam. Pendant tout votre séjour, vous pourrez bénéficier de la spacieuse piscine confortable que vous proposera Lagrange Prestige dans de ses 44 résidences à la montagne, à la mer ou à la campagne.
C'est la piscine qui est
confortable ? Oui, la piscine, c'est marqué.
C'est sympa, Lagrange.
C'est quoi une piscine pas confortable ?
Une piscine pas confortable, par exemple.
Il y a des rochers dedans.
Des requins, des rochers. Demandez à Marion Cotillard, tiens.
Des orques.
C'est une mauvaise piscine.
Ça, c'est vraiment pas une piscine confortable.
Non. Delphine, faites quoi dans la vie à Marquet ?
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ça se prononce Marcaille, pour être hyper précis.
Marcaille ?
Oui, Marcaille, c'est juste à côté de Tarlat.
Très bien.
Donc, qu'est-ce que je fais ? Je suis psychologue et je vais aller râler Pierre Bénichou parce que je suis en congé maternité.
Ah oui, bah vous ne serez pas râler parce qu'il n'est pas revenu depuis tout à l'heure. Alors,
on a perdu Pierre Bénichou.
Appel, avis à la population.
Mais qu'est-ce que fait Pierre ?
Alors, on ne sait pas. Il est
quelque... Je préfère pas vous dire.
Quelque part sur la croisette.
La dame du premier rang est toujours là, par contre.
Ouais, il ne l'a pas suivi.
Je crois savoir, Laurent. Je crois qu'il est avec Daniel Alombroso, c'est ça ?
Peut-être, Delphine.
Ah oui, sans
doute. Il faudrait que vous bougiez. J'imagine que vous êtes avec un téléphone portable. Delphine ?
Non, même pas.
Ah bon, parce que la liaison est très très mauvaise.
C'est pas grave, on va bouger Europe 1.
En même temps, elle est à Marcaille.
Et je ne voudrais pas que vous soyez désavantagé par rapport à Nicolas. Si jamais vous trouvez la bonne réponse et qu'on ne l'entend pas, ce serait dommage.
Alors, je ne sais pas quoi faire. J'ai bougé un petit peu, vous m'entendez mieux ?
Oui, je vous entends bien, c'est qu'il y a des coupures, c'est juste ça.
Ou alors, il faudrait déménager près d'une antenne relais.
Voilà, peut-être.
Payez votre téléphone, tout simplement. Oui.
J'y penserai.
Delphine, je vous présente Nicolas qui lui est rouennais.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Nicolas. Bah, tiens.
On dit pas Rouennègre, on dit potentat africain.
J'ai pas dit Rouennègre. Rouennais, j'ai dit. Ah bon. Pas Rouennègre.
Voilà, donc Pierre.
Moi, quand je parle dans le micro, on me comprend.
C'est une autre époque.
Mettez votre casque, Pierre Bénichou, ce sera mieux, vous comprendrez
depuis
mieux.
Depuis l'armée, on m'a jamais parlé comme ça.
Nicolas, vous allez peut-être pouvoir nous parler de votre mère qui vient de devenir ministre des Sports.
Oui, tout à fait.
Vous avez l'air au courant, donc ça fait plaisir.
Mais je crois qu'il pensait à sa maman, lui.
Non, non, je suis assez content. C'est pas ma mère, mais je suis assez content que voilà, qu'elle ait ce poste.
Et je crois qu'elle
est un Normand.
Je crois qu'elle s'y connaît vraiment, vraiment en sport, en plus.
Oui,
hein.
oui, elle était médecin du sport. Donc elle s'y connaît. Ouais.
Enfin, David Douillet s'y connaissait un peu en sport aussi.
Non.
Non, ah, d'accord. Ouais.
C'est pas parce qu'on pratique un sport qu'on connaît forcément très bien tous les autres sports.
Exactement.
Et qu'on connaît bien les coulisses, vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais il s'y connaît mieux qu'un prof de maths.
Si vous me demandez s'il est meilleur judoka qu'elle, oui. Ça je vous réponds oui. Vous voyez.
D'accord, oui.
Maintenant, est-ce qu'elle connaît mieux le sport que lui?
Bien sûr.
Je pense que oui.
Oui,
vous voyez.
Oui.
Elle a déjà travaillé dans les ministères, donc elle connaît un peu
les rouages.
Bien sûr.
Les rouages, voilà.
Delphine.
Oui.
Ça y est, ça passe mieux le téléphone.
Vous m'entendez mieux?
Pas du tout, pas du tout. De toute façon, c'est très mauvais avec Nicolas aussi, donc c'est pas grave. C'est l'équipe qui sera autour de moi qui gagnera.
C'est perdu d'avance.
Alors, je tente la question. Hein. Attention, pour une semaine chez la Grange Prestige.
Putain, dis-là, on s'emmerde pas. Hein. La Grange Prestige, une semaine. Oh là là, Delphine Declerc, elle va être contente de l'avoir.
Pierre.
J'ai même pas compris.
Ah bah oui, oui, tu sais, parce que tu manges jamais d'huître, toi, t'es vraiment un pouf.
Ah oui, d'accord. Ah oui, oui.
Ah, à tes souhaits.
On s'enrhume sur la croix.
Ah, oui, oui. Sortir habillé, ce serait mieux.
Je me travaille pas nu sur la croisette. Hein.
Si. Ça dépend à quelle heure.
Oui.
Je suis même pas sorti d'ici. Alors.
T'as encore dormi avec la clim à fond.
Le nombre de fois où les flics le ramènent à 4h du matin.
On a
nu sur la croisette avec un chapeau et une voilette.
Alors, pour pas qu'on le reconnaisse, il fait la voix de Bourville, mais on le reconnaît quand même.
Oh. Ils sont bêtes. J'ai cherché mon vélo. J'étais tout nu.
Bon, c'est mieux que Giscard d'Estaing.
Ah, il faut être blindé pour faire ça.
Giscard d'Estaing, c'est même pas la peine de lui demander, il ne sait pas le faire. Comme on dit avec les gosses, elle ne sait même pas chanter au clair de la lune. Oui, je sais. Il ne sait pas le faire.
Oui, c'est la question.
La question qui va vous départager, Delphine et Nicolas. Qui sera sur scène enfin réuni pour jouer la pièce « J'avais un beau ballon rouge » au mois d'avril prochain, avril 2013.
Ça fait partie, partie du titre au mois d'avril prochain. J'avais un beau ballon rouge au mois d'avril prochain.
Non, le titre.
Qui sera sur scène enfin réuni? C'est quelqu'un qui a été coupé en deux.
Sarah Bernard.
Alors, Romain Bouranger. Et son père.
Ah oui.
Romane et Richard Boranger, bonne réponse de Delphine.
Yeah, yeah. Super.
Vous ne le saviez pas, Nicolas?
Si, je l'ai dit et t'as dû.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Ah, il a bon dos le téléphone. Dans quelle pièce ils vont jouer?
Ils vont jouer, non, bah, je vous l'ai dit, dans J'avais un beau ballon rouge.
J'avais un beau ballon rouge, ouais, c'est une pièce.
En avril prochain.
Voilà.
C'est bien pour Boranger, j'avais un beau ballon de rouge.
Ouais. Un dialogue entre un papa commerçant et sa fille étudiante en sciences politiques près de Milan. Elle est révoltée par les injustices de la société. Cette pièce se jouera au théâtre du Rond-Point en avril 2013. Mais on a déjà pu assister à une lecture en novembre dernier à Nancy. C'est pas mal de voir Romane et Richard Boranger réunis quand même.
Alors vous avez dit à nouveau réunis, mais en fait c'est la première fois.
Scène.
Ah oui, quand j'ai à nouveau réunis, mais ils ont déjà tourné ensemble.
Oui, mais sur ça, au théâtre.
Ouais, au théâtre.
Ah, au théâtre, ce sera la première fois.
La première fois.
Voilà, la première fois, vous avez raison.
En vrai, tous les deux.
Écoutez, ne chipotez pas, non, Delphine a gagné une semaine.
Oui. On chipote pas, mais on voudrait un peu de précision.
Bravo Delphine, on vous embrasse. Une autre question.
On n'est pas des chiens.
Oh, une question très très facile sur le premier conseil des ministres hier. Pourquoi Cécile Duflo s'est-elle fait remarquer?
Ah, elle était en jean.
Elle était en jean. Ah,
quelle horreur.
Ça vous a choqué, vous?
Oui. Bah, non, je m'en fous parce qu'elle est quand même baba cool, elle. Donc c'est pas choquant. Mais
c'est
pas
choquant.
Elle était en jean.
Elle aurait pu faire quand même un effort pour entrer dans les ors de la République.
Ouais. Dans les ors de la République.
Oui, quand tu...
Non, mais enfin, elle était habillée correctement quand même.
Bah, en jean, c'est la première fois qu'on voyait une ministre en jean.
Ouais, mais elle est écolo. T'as déjà vu un écolo bien habillé?
Non. Moi, j'ai vu des gens habillés en pantalon qui n'étaient pas des jeans et qui étaient vraiment ni fait ni à faire.
Enfin, bah oui,
mais
ça, d'accord.
Non, mais d'accord. Mais
tu veux parler de Borloo, c'est ça?
Ah bah non, mais écoute, on est tenue élégante ou pas? Bon, et
bien sûr,
mais
c'est très rare quand même que tu vois un plombier qui arrive chez toi en smoking. t'arranges pas qu'il pour t'arranger les chiottes.
Mais il y a
donc, il y a des tenues qui sont quand on va en conseil des ministres. C'est pas un jean qui est un très joli pantalon, très saillant.
Mais chez soi.
On le met pas pour aller au conseil des ministres. Il y en a marre à la fin. Ah, vous voulez m'énerver que je m'en aille, c'est ça?
Dites, il y en a alors en revanche qui n'a pas été bien. C'est signalé par toute la presse ce matin, aussi bien Libération que Le Parisien. C'est Éric Besson. Alors lui, il a été inélégant.
Oh, ça, c'est étonnant.
Non pas dans sa tenue, mais dans sa façon de faire. Parce qu'il n'est même pas venu pour faire la passation de pouvoir à Bercy. Il était en vacances. Il a fait sort qu'il n'avait pas envie de rentrer. Voilà. De toute façon, il ne veut plus faire politique.
Il veut faire du foot.
Il est dégoûté. Voilà. Et, mais enfin, quand même, ça a été. Il paraît que même François Fillon a insisté pour lui dire mais c'est la République, on doit transmettre les pouvoirs au ministre suivant. Non, 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 je t'emmerde. Enfin bon.
Avec Besson, quoi.
Ah ouais.
C'est quand même triste, non, Pierre?
Non, moi, je trouve que. Il a été tellement, tellement vilipendé, tellement insulté, tellement machin. Bon, il s'est pas trop mal conduit à son poste, bien qu'il ait laissé tomber les socialistes. Mmh. Je trouve je trouve normal qu'il n'ait pas eu envie d'aller dire oui, bonjour, monsieur, votre commissaire, tout ça. Il n'a rien
dit. C'est
pas une question d'envie, exactement.
Je pensais que Claude Guéant avait envie de filer son ministère à Manuel Valls. Non, mais il était là.
Et voilà. Manuel Valls, comment lui.
Manuel Valls, Guéant n'est pas un ancien communiste. Ou un ancien socialiste.
C'est vrai.
Donc, c'est vrai que de donner...
Bah, Frédéric Mitterrand, par exemple, il était là. Ouais. Et ça s'est très bien passé avec Aurélie.
Tu vois, alors voilà, moi, ça me choque beaucoup plus que d'aller en jean au Conseil des ministres.
Oui, mais Frédéric Mitterrand, comme chacun sait, il est en même temps un peu socialiste par son oncle, en même temps un peu de droite. Il est bi.
Alors, il y a aussi la polémique sur les 30% de baisse de salaire. Parce que ça, c'est intéressant quand même. Parce que moi, j'ignorais, j'ai entendu, c'est vrai, Jean-François Copé toute la journée hier dire oui, mais alors, c'est une imposture parce qu'en fait, ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de ministres. Sauf que je ne savais pas, et c'est grâce aux Parisiens, ils font bien leur boulot, hein, aux Parisiens, Nathalie Segone, que j'apprends que certes, là, il y a plus de ministres qu'au début du gouvernement Fillon, mais Copé a comparé en fait le budget du premier gouvernement Fillon avec le budget
actuel,
mais il y a eu après les législatives, il y a 5 ans aussi 32 ministres dans le gouvernement Fillon, et lui il a fait que comparer
aux 15,
aux 15 premiers, ce qui est vraiment une escroquerie totale. La mauvaise foi en politique, c'est quand même quelque chose
ça n'a pas de limite.
Puis c'est tellement visible comme escroquerie, quoi, c'est ridicule.
C'est petit.
Alors ça va même plus loin, parce que le mouvement des jeunes socialistes, ils ont dit c'est ça monsieur Copé, vous commencez à critiquer ce qu'on fait. Bien, très bien, puisque les ministres continuent à être payés pendant les 6 mois qui suivent le fait qu'ils ne soient plus ministres, c'est-à-dire que tous ceux qui ont laissé leur poste hier vont continuer à être payés pendant 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les socialistes ? Ils disent, puisque c'est ça, acceptez au moins que la rémunération que vous allez toucher pendant 6 mois soit baissée de 30%. On va voir ce qu'il va répondre, Copé, à ça.
Il va botter en touche. Il va dire, non, mais ce n'est pas la question.
Il va dire, je m'en fous, j'étais pas ministre.
Voilà. Il
est même capable de dire oui, juste pour emmerder Fillon.
Passer les 6 mois, ils vont à Pôle emploi ou comment ça se passe ?
Ils ont le temps de trouver un job pendant 6 mois.
Je trouve que c'est une mesure symbolique, mais tout à fait démagogique.
C'est pas démagogique, c'est
démagogique.
Symbolique.
C'est démagogique. C'est pour dire aux gens, voyez-vous, on est les ministres. Chacun sait que les ministres ont des avantages qui valent beaucoup plus que leurs 12 000 ou les 9 000.
Oui, mais enfin 30%
par mois. C'est de même que quand Sarkozy.
Alors, faut rien faire, Henri.
Quand Sarkozy s'est augmenté de 3 fois, c'était la chose la plus bête au monde, puisque. Il a laissé le contrôle des fonds publics de l'Élysée à la caisse à la caisse des dépôts. Or, il avait à sa disposition moins d'argent, même en étant augmenté 3 fois. Mais il fallait pas le faire parce que c'est symboliquement stupide. Là, c'est symboliquement très bien. Mais c'est une démagogie complète.
Oui, qu'est-ce que vous préférez, que ce soit symboliquement stupide ou symboliquement très bien ? Moi, je préfère que ce soit symboliquement très bien.
Ah, oui.
Enfin, quand même, Pierre Bénichoux.
À ce moment-là, on fait rien du tout, alors, puisque dès que tu fais un truc un peu correct de ce genre, c'est de la démagogie. Mais alors,
on
à ce moment-là,
on va baisser les salaires des ministres.
Non, mais si on se conduit mal, on est de la merde. Si
ce qui est terrible, c'est que ce qui est terrible, c'est que c'est pas avec ce salaire-là que Cécile Duflot va pouvoir s'acheter un pantalon. On n'est pas dans la merde, hein, quand même. Ah là là là, c'est terrible. Allez, une autre question, vous voulez?
Ah ouais,
allez,
ouais.
On quitte la politique. Qui a mis 7h30 hier face à des vents contraires pendant 20 km pour réaliser son exploit?
C'est Titoff pour venir à l'émission?
Non.
Ah, Croizon?
Monsieur Croizon.
Il est arrivé de l'Océanie à l'Asie, en Indonésie.
Exactement, il a franchi la première étape de ce qui est normalement la série des exploits qu'il doit réaliser. Il a franchi la mer qui sépare l'Océanie de l'Asie. C'est la première étape de son tour du monde. Il a fait ça en 7h30 en nageant à contre-courant, sans ses membres, enfin sans ses membres.
Ah,
sans
ses bras. C'est lui, c'est Croizon.
Oui.
C'est notre copain. Là.
C'est une vraie fusée. Hein.
Avec ses prothèses spéciales. Il est con, il aurait dû passer par Cannes, on lui aurait donné des palmes.
Pompon, on va se gêner. Ciné, Motro, Pompon.
Nous sommes à Cannes et la spécialiste cinéma est restée à Paris. Heureusement, on en a mis une autre, Isabelle Motro, mais la plus ancienne festivalière avec France Roche, Monique Pantel, est restée à Paris. Bonjour Monique.
Oh bonjour.
Qu'est-ce que passe-t-il, Monique?
J'ai eu un coup de cœur, je suis complètement déglinguée.
Oh.
Depuis que j'ai vu De Rouillé d'eau, c'est un chef-d'œuvre.
Oh.
C'est la palme d'or. C'est la palme de l'amour. C'est la palme de tout. C'est un chef-d'œuvre magnifique, avec deux acteurs exceptionnels, autant l'un que l'autre. C'est une histoire de la vie, de tous les jours. J'ai des gens chez qui rien ne va, le corps qui flanche, le plaisir qui crie ses droits, la brutalité, le courage. Tout va mal, tout va mal. Et ils vont s'en sortir quand même. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment en crever. C'est plus beau que beau. Je peux pas vous faire passer l'émotion. Que
ah si, vous la faites très très bien passer. On en a des frissons.
Oui,
on a même cru qu'il fallait appeler le médecin là à un moment donné. Monique.
Je suis contente d'avoir vu un film aussi grand et aussi intense. Mais c'est embêtant pour le Festival de Cannes. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre d'aussi beau maintenant?
Bah alors écoutez, vous nous prédisez donc une palme ou au moins une récompense pour Marion Cotillard ou Mathias Schoenaerts.
Trois.
Ah oui.
Trois palmes.
Ah, tu penses qu'ils vont avoir les deux prix d'interprétation et les palmes d'or?
Mais j'en suis sûre. Ou alors il n'y a pas de justice.
Oh bah oui, mais tu sais que souvent c'est comme ça. Il n'y a pas toujours de justice.
Hein. Moi je veux qu'il y ait la justice.
Bon, et l'or, que ça t'a pas fait peur, Monique?
Oh, comme si j'avais pas eu peur devant l'orque.
Quand elle c'est une belle séquence, ça.
Quand elle revient à la fin, qu'elle ose revenir vers l'orque.
Alors, on regarde pas la fin.
Oh, c'est magnifique.
Tu confondrais pas avec Sauver Willy?
Non. Non, mais elle a raison. Ça fait partie des séquences qui font quand même, qui vous font des frissons. Hein,
non, mais c'est vrai, parce qu'il y a aussi le moment où le désir crie ses droits, comme elle le dit, qui doit être formidable.
Ah, mais il y a des choses très drôles avec le désir, hein, Monique. Il y a des choses assez drôles.
Il y a des trucs, au milieu de tous ces pleurs, on rit.
Ouais.
Il est très rigolo. Ce monsieur, je dis pas son nom parce que c'est trop difficile à prononcer, mais il est très
Schoenaerts,
marrant.
On dit.
Il a beaucoup, beaucoup de talent. Il a une force, une vitalité. Il fait que faire des conneries tout le temps. Hein. Mais tellement bien et tellement pour aider les autres. Oh là là. Et quant à elle, c'est son meilleur rôle.
Vous pouvez pas mieux nous vendre ce film. Ah hein, ouais. Franchement, la De Rouillé d'Os, vous nous donnez tous envie d'aller le voir. D'autant que il faut quand même le signaler. Hein, c'est un film qui, lui, est sorti en salle. Contrairement...
Je l'ai vu chez moi, dans ma rue.
Ouais, ah bon, chez vous?
Oui. Dans sa rue. Alors, tu sais qu'elle a un cinéma en bas de chez elle, Monique.
Oui. Bah, Europe 1 fait les choses bien.
Bah oui. Moi, j'aimerais bien aussi, tiens, d'ailleurs, si je pouvais...
Il n'y a pas de problème, on va vous trouver ça.
Ah, c'est sympa. Ah,
oui. On va te trouver une autre rubrique.
Tu joues de la guitare?
Moonrise Kingdom, un autre film.
Eh bien, c'est très mignon.
Oui.
C'est pas aussi grandiose, évidemment, que l'autre. Mais c'est très mignon.
Avec Bruce Willis, Edward Norton, on en a parlé hier, l'histoire des scouts qui disparaissent.
Ah oui, mais qui disparaissent exprès.
Ah oui.
Par amour.
Sauve.
Ces deux petits qui s'aiment, c'est trop mignon. Ils sont vraiment rigolos. Et Bruce Willis, c'est génial. Hein. ce flic qui est sinistre et qui tout d'un coup devient joyeux parce qu'il veut sauver le petit Scoop. C'est trop mignon, c'est très mignon. Bah,
ça dégouline tout ça. Il
n'y
a pas des critiques de cinéma qui soient des hommes, non?
Mais quel enculé ce type!
Écoute, on n'osait pas le dire.
Monique, merci, Monique, nous sommes en direct. Si vous pouviez mesurer vos propos, ce serait pas plus mal.
Excusez-moi.
Voilà.
Il m'a secoué, ce type.
Ça,
il fait exprès.
Mais il a rien vu, Monique, laisse tomber.
Bon, heureusement qu'on pourra couper au montage.
Ah, c'est drôle.
Pierre.
Oh, c'est parti d'un
Mais coup. Monique et moi, on s'aime. Ah. Non, c'est vrai ou pas?
C'est pas vrai.
Comment c'est pas vrai? Enfin
la vérité.
Enfin viril.
C'est trop viril pour moi et trop con.
Ah, il s'aime. Monique, vous faites siffler par Toucan.
Je regrette, mais à Mont-de-Marsan et surtout à Paris, tout le monde m'aime.
C'est vrai, c'est sur son palier.
Tout le monde m'aime à Mont-de-Marsan.
Voilà un bon titre de film. Ouais. C'est mieux que de Rouiller d'os. Là, tu comprends rien. Tout le monde m'aime à Mont-de-Marsan. Voilà un film où j'irai avec plaisir.
Je te promets un autre film, Monique Pantel.
Je l'ai vu, je m'en souviens absolument pas.
Ben alors, passons à autre chose. Contrebande.
Pourquoi?
Avec Mark Wahlberg.
Oui, heureusement qu'il est là, mais quand même. Pourquoi avoir fait un remake aussi fade d'un film aussi médiocre que devait être le premier film danois?
Ah, parce que c'est un remake d'un film danois. Remake,
oui. Et c'est idiot, c'est chiant. Alors, c'est Mark Wahlberg qui, lui, bon, il est sympa, mais enfin, bon, il reprend du boulot comment ça s'appelle? C'était un gangster à sa vie, il reprend du boulot, et gnague, c'est chiant.
Dis donc, j'ai dit viril, j'ai pas dit grossier, vulgaire. Hein.
Mais c'est pas toi qui es viril, c'est moi.
Vous êtes d'accord, Isabelle,
oui, je suis
avec
d'accord.
Tout ce que dit Monique?
Bah, c'est
enfin, pas totalement avec tout ce qu'elle
non,
dit.
Non, je suis pas d'accord, aussi. Absolument tout. Non, mais là, en fait, c'est un film de genre... vous savez,
de genre idiot.
De genre braquage, on remet ça pour une dernière fois et ça dérape. Bon. On a vu ça 50 fois.
Je pense qu'on retiendra qu'il faut aller voir De Rouiller d'Os. Isabelle Motron nous l'a conseillé hier. Monique Pantel, aujourd'hui, on ne pourra pas faire mieux. On vous embrasse depuis Cannes, Monique Pantel. Et dans un instant, après Marlon Roudette, l'invité d'honneur.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Stevie adore ce jeu. Qui se cache dans la loge d'honneur? Eh bien, ah oui, vous allez pouvoir, cher Stevie, cache, hein.
Qui se cache dans mon placard?
Posez toutes les questions que vous voulez à notre invité.
On va se retenir quand même.
Méfiez-vous quand même. Posez des questions élégantes à notre invité.
Bien sûr.
Soyez aimable avec notre invité. Il va nous rejoindre, ou elle va nous rejoindre, d'ici à 18h, car j'espère évidemment que vous le trouverez au moins dans les 15 minutes qui vont venir. À vos questions, vérifions d'abord que notre invité nous entend bien. Bonsoir.
Oui, oui. Bonsoir.
Ah oui, la voix est bien déformée. Oui, alors. Donc. C'est parti.
Alors. Vous êtes un homme?
Oui.
Oui.
Ah, j'allais dire non. Bon.
La voix est très bien déformée.
D'accord.
Est-ce que vous avez suivi l'introduction en bourse de Facebook?
Pas du tout.
Vous utilisez Facebook, non?
Non.
Ah, ni Facebook, ni Twitter?
Non.
Vous avez un ordinateur?
Oui.
Est-ce que là vous êtes à Cannes pour le plaisir ou pour le travail?
C'est
une question difficile peut-être?
Oui. Non, pas du tout. Mais alors, vous posez une question où je réponds oui ou non.
Oh ben non, vous avez le droit de dire l'un
des mots
deux,
très courts, vous avez le droit. Ne pas vous lancer dans des phrases, mais vous pouvez répondre sur deux ou trois mots.
Plaisir ou travail?
Les deux.
Ah,
oui, est-ce que vous la question que posait Pretty Woman à Richard Gere dans...
Dans Pretty Woman.
Oui, ouais, dans non. Pretty Woman.
Merci. Est-ce que vous avez fait la fête un peu hier soir?
Oui.
Ouais, oui. Ah.
C'était pour le plaisir ou pour le travail?
Pour le plaisir.
Pour le plaisir.
C'est Hervé Villard.
Non, c'est Herbert Léonard.
Herbert Léonard. C'est vrai que ça marche mieux.
Est-ce que vous venez chaque année à Cannes, en fait?
Oui.
Depuis longtemps?
Oui.
Est-ce que le français est votre langue maternelle?
Oui.
Ben, c'est vrai.
Est-ce que votre mère est française?
Oui.
Et votre père?
Oui.
Oh, dis donc.
D'accord.
Comme vedette étrangère, bravo.
Donc chaque année à Cannes, donc vous ne concourez pas pour une récompense en fait. À Cannes.
Peut-être.
Ah, peut-être quand même.
Est-ce que vous parlez d'autres langues?
Oui.
Est-ce que vous êtes connu à l'étranger?
Oui.
Dans des pays non francophones?
Oui.
Oui, oui, je vous confirme.
Ah, vous êtes une star internationale?
Ouais.
est-ce que vous avez un nom de famille qui...
International?
Non.
Ah, vous avez un nom de famille très français?
Oui.
Vous habitez Paris?
Oui.
Est-ce que...
Bien. Est-ce que vous pouvez répondre par oui ou par non à cette question?
Est-ce que quelqu'un d'autre de votre famille exerce la même profession que vous?
Non.
Non.
Est-ce que vous fabriquez des objets?
Tu penses à quoi?
Non.
Un mec célèbre qui ferait de la poterie ou un truc
non,
comme ça?
Non, je pensais aux chaussures Louboutin.
Ah oui.
Parce que
par
tous
exemple.
Les ans à Cannes, c'est un peu le festival Louboutin.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Il est pas chauve.
Ah, il est pas chauve. Vous avez des longs cheveux?
Moyen
cheveux. Bon.
Est-ce que vous avez des bottes en cuir?
Non.
Vous voulez un premier indice?
Ah bah oui, oui.
C'est pas Johnny Hallyday.
Narbonne, mon ami, douceur des premiers jours, ce soir fait l'endormi à l'ombre de ses tours. Et sous la lune pâle, je marche allègrement dans la nuit provinciale de ce décor charmant.
Narbonne, mon ami. Évidemment, cher invité, vous avez compris, vous, cet indice.
Oui.
On peut même peut-être aider mes camarades, parce que oui. Je sens que ça ne les aidera pas. Vous êtes né à Narbonne.
Oui, à la sortie du garage.
C'était Charles Trenet qui chantait?
Oui,
Charles
bien Trenet. Sûr. Oui.
Je t'attendrai à la porte du garage.
Sans être là. C'était Charles Trenet qui chantait, ouais.
Ben okay.
Okay.
Mais c'est pas possible parce que t'es con aujourd'hui. Vive Manique Pantel.
mais alors vous ne chantez pas Charles Trenet quand même, invité?
Non.
Mais non, puisqu'on vous dit, mais vous êtes imbécile.
Non, mais parce que là, il vient de fredonner. Je t'attendrai à la porte du garage.
Mais oui, mais je viens de vous expliquer que c'était pour Narbonne.
Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Enfin, voyons.
Est-ce que vous avez connu Claude Nougaro?
Oui.
Ah. Est-ce que vous avez travaillé avec lui?
Non.
Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique?
Oui.
Plusieurs?
Non.
La guitare?
Non.
Piano?
Oui.
Bon, vous n'allez pas faire tous les instruments.
Ah!
Quoi? Ah.
Donc vous êtes un pianiste de Narbonne.
Voilà. Bon. Avec
et
ça.
Et vous êtes connu internationalement. Ça s'appelle du mytho, ça, monsieur.
Oui.
Attendez, on va réfléchir.
J'arrive pas à lire ce que vous avez proposé, mais allez-y, c'est sûrement pas ça, Stevie.
Bowling?
Claude Bowling.
Claude Bowling.
Non.
Ah oui, c'est vrai que le bowling est connu dans le monde entier, ça c'est sûr.
Ah, c'est vrai qu'il
a... Ah si,
bowling,
ah, oui. Si, ah, oui. Je suis désolé.
Oui, mais c'est pas très français.
Je me demande s'il n'est pas décédé, Claude Bowling.
Je pense qu'il
pas
est...
Pas du tout, pas du tout.
Non, il n'est pas mort.
Vous êtes sûr?
Ah, moi je pense qu'il est décédé depuis de nombreux...
Michel Legrand, non, non plus. Voici un deuxième indice. Je suis désolé parce que pendant les indices, mes camarades me passent ces petits mots. Et Caroline Diamant, j'aimerais que vous m'expliquiez le rapport qu'il y a entre Elton John qu'on est en train d'écouter et Francis Cabrel.
Et le piano?
Alors, alors en fait, c'est la guitare et c'est Toulouse. Autant pour moi.
C'est même pas Toulouse,
Francis
Cabrel. En plus,
il joue pas de la guitare.
Non, je sais pas, tout à coup j'ai cru avoir un flash et visiblement c'était pas un bon flash.
Elton John, vous voyez pourquoi, invité, on nous donne cet indice?
Oui.
Vous avez collaboré avec Elton John?
Oui.
Titoff propose Jean-Paul Gaultier. Est-ce que vous êtes Jean-Paul Gaultier?
Non.
Ouais, c'est vrai qu'il joue très bien du piano.
Voici un autre indice. Yeah. Michel Polnareff, la lettre à France. Et évidemment, quand Caroline Diamant entend Michel Polnareff, elle propose Pascal Obispo. Êtes-vous Pascal Obispo?
Non.
Non. C'était pas con.
Alors, c'était pas con.
Il joue du piano.
Alors, chaque année, quand vous venez à Cannes, vous jouez du piano.
Non.
Vous venez même
je dois
pas
dire
pour
que
ça.
J'ai appris là aujourd'hui que notre invité jouait du piano.
D'accord.
Vous voulez dire que c'est pas pour ça que vous êtes connu?
Ben non.
Ah, d'accord.
Oh,
bah,
ça va, vous vous depuis tout à l'heure, on cherche.
C'est pas vrai.
Ça veut dire que, c'est un peu un indice comme quoi il mange du poisson, par exemple. Ouais, c'est vraiment un indice qui n'a rien à voir.
Ça veut dire que votre profession n'a rien à voir avec la musique?
Si.
Ah, quand même.
Alors, moi, je pense que vous êtes acteur et le rapport avec la musique, c'est la musique de film.
Non.
Putain, c'est
non.
Sherlock Holmes, ça.
C'est quand même la musique de film, le rapport, ou même pas du tout?
Du tout.
Ah.
Du tout.
Oula. Je vais vous donner un dernier indice.
Ouais. Ah bon?
Après, il y en a plus. Did you say all you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kind of
busy. Il y en aura d'autres, des indices, je vous rassure. Hein, mais ce sera après la pub, le temps que vous réfléchissiez à d'autres bonnes questions.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Dire que Caroline Diamant me surprend de petit papier en petit papier, puisque le nom qu'elle me propose maintenant pour l'invité d'honneur, écoutez bien, le lion dans Madagascar.
Bien sûr, qui joue du piano et qui est né à Narbonne.
Et qui le vient chaque année.
Non, alors je vous explique, il y a une logique. Elton John a fait la musique du Roi Lion.
Pas bête.
Madagascar est à Cannes. Je me suis dit, on a peut-être
un enfin, le lion de Madagascar ne joue pas de piano. Il n'est pas né à Narbonne. Enfin,
qu'est-ce que vous en savez?
Franchement, un peu d'effort tout de même. Je n'arrive pas à lire ce que vous proposez, Stevie. Allez-y.
Michel Faure.
C'est qui ça, Michel Faure?
Bah, le spectacle était bien là.
Michel Faure.
Ah, Michel Faure.
Michel Faure. C'est faux.
Est-ce que vous portez des lunettes?
Non.
Tu peux me permettre une question un peu osée, monsieur?
Oui.
Parce que alors j'ai identifié donc Lady Gaga, Elton John, Michel Polnareff. C'est quand même très très gay tout ça. Vous êtes un peu.
Non, on pose pas ce genre de questions à un
invité. Bah non, mais ça peut aider.
Mais il est fou.
Ça peut t'aider.
Ouais, ça peut t'aider à toi, ouais.
Ça aide beaucoup. Tu te paries qu'ils sont en question.
Le dauphin de Galak propose. Oh.
Est-ce que vous avez déjà dirigé des entreprises, monsieur?
Oui.
Ah. Écoutez l'indice numéro 6. Le 6, je réclame. Je tiens à dire que mes camarades ne posent pas de bonnes questions. Il faudrait peut-être que vous identifiez le métier de notre invité.
Est-ce que vous êtes...
Parce que je vous le dis tout de suite, ce n'est ni Thomas Langman, comme vous le proposez, Caroline Diamant, ni Jean-Claude Camus, comme vous le proposez, Stevie.
Vous êtes acteur?
Non.
Est-ce que vous exercez une profession artistique?
Oui.
Chanteur?
Non.
Comédien?
Non.
Artistique, par exemple, ça pourrait être cuisinier aussi?
Oui.
Il faut dire que quelqu'un.
Mais c'est non.
C'est non. D'accord.
Il faut dire que quelqu'un parmi nous, depuis le début de cette séquence, a frôlé de très près notre invité. Mais notre invité et moi-même avons été suffisamment malins pour ne pas relever, évidemment, ce moment où un d'entre vous brûlait, je dois dire.
Ah, dites-nous qui.
Doit être moi. J'ai dansé, j'ai donné 25 noms.
Ce n'est pas vous.
Il y a bien un nom qui était pas loin.
Herbert Léonard.
Non.
Est-ce que vous avez déjà été directeur de cabinet d'un ministre?
Non.
Non. Attendez, moi j'ai pas compris votre métier.
Une profession artistique.
Avez une profession artistique?
Et vous êtes écrivain?
Non. Vous êtes danseur. Est-ce
que vous êtes réalisateur?
Cet indice devrait vous aider. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime
que la mode. Tel est son nom de code. Plus fort que ça, victime de la mode. On n'entend pas, victime de la mode. Oh, c'est beau comme ça, victime de la mode.
Ah là, là, d'un seul coup, évidemment, on a des propositions autour de la table. Oui. Évidemment, Isabelle Motreau me propose une deuxième fois Jean-Paul Gaultier, au cas où la première fois...
C'était moi la première fois.
Notre invité n'aurait pas entendu, mais non,
non,
ce n'est pas Jean-Paul Gaultier. Caroline Diamant, allez-y Caroline.
Christian Audigier.
Non.
Il était chez, il était chez Drucker ce matin déjà, c'est à double peine sinon.
Mais alors, donc vous êtes,
Stevie,
vous êtes quand même...
Stevie propose Michou.
Putain, j'avais le même. Alors j'ai demandé, il a pas de lunettes. Bah oui, parce que Elton John, Lady Gaga, Paul Naref, on pense à des travaux de chez Michou, un truc comme ça.
Mais l'indice sur victime de la mode, invité, c'est pas un piège. Vous êtes bien, vous exercez dans le domaine de la mode.
Oui.
Contrairement à Michou, qui n'a rien à voir avec la mode, hein, je vous signale.
Oh, il y a une certaine élégance.
J'ai trouvé, je crois.
Quand même.
Merci. Alors,
vous êtes un créateur de mode.
Oui.
Stevie, allez-y.
Pierre Berger.
Non.
Non.
Alors moi, je pensais à Baptiste Giabiconi.
Oh, mais
non,
si,
créateur de mode.
Oh, non.
Est-ce que vous... Je l'ai marqué, moi aussi. Il faut dire que j'écris toujours Baptiste Giabiconi.
Est-ce que vous
êtes... stylo, j'écris ça.
Stevie.
Est-ce que vous étiez le couturier préféré d'une série anglaise
dont le générique serait celui-ci, le 8? J'ai du Courrèges qui arrive à ma gauche, du Lacroix qui arrive à ma droite, mais ça n'est pas ça.
Oh, mince.
Si c'est John Galliano, c'est de mauvais goût. Hein.
Ce n'est pas John Galliano, ce n'est pas Hubert de Givenchy.
Ah ben non, mais si, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez un rapport assez proche à la religion?
Non.
Est-ce que vous avez déjà vu dans l'avenir?
Ça commence à être insultant pour
non.
lui.
Non.
Vous avez jamais vu dans le futur?
Non.
Castelbajac, Paco Rabanne, Karl Lagerfeld, Albert Elbaz. Non.
Non.
J'ai la honte pour vous.
Ah, c'est pas.
Et
cool.
Alors moi, ce que j'ai dit, c'est pas bon non
alors,
plus.
Attendez. Qu'est-ce que vous avez dit?
Pierre Cardin.
Pierre Cardin, non.
Vous habillez les femmes, les hommes, les deux?
Oui.
Les deux.
Ah.
Voltaire.
Bah Zadig et Voltaire.
Non, c'est ça.
Putain, il y a Voltaire qui arrive.
Alors là, je dois dire.
Eh, même Frédéric Lefebvre, il l'aurait pas fait.
Ah, vous n'êtes pas déçus, hein, pour un passage chez nous. Le lion de Madagascar, Voltaire.
Non, mais attends, c'est.
Non, mais attends,
il reste qui?
Monsieur.
Attendez.
Est-ce que vous êtes mort?
Est-ce que
alors, c'est pas Christian Dior.
Non. Est-ce que c'est de la haute couture?
Oui.
Ah, haute couture.
On me propose Gabbana. Non, Dolce non plus. Alors, on,
pourtant,
écoutez, on n'en a pas 10 000.
Avengers,
des Français, c'était... créateurs, couturiers, dans
connu
la mode,
à l'étranger, ouais.
Connu à l'étranger, qui a quand même fait des costumes pour Elton mais John, oui. Pour Lady Gaga, pour Michel Polnareff. Enfin, qu'est-ce que je peux faire de plus?
Vous avez une boutique sur les
pour
Champs-Élysées?
Johnny Hallyday.
C'est pas ça?
Polnareff, quand même. Il était habillé par
qui? Ah oui. C'est le roi du cuir.
Vous avez une voiture?
Oui.
Jean-Claude J3, notre invité d'honneur.
En direct de Cannes sur Europe 1, depuis l'hôtel Majestic, toute l'équipe de Laurent Ruquier rejoint par Jean-Claude J3.
Le couturier Jean-Claude J3, fondateur de, évidemment, cette haute maison qui nous donne des blousons, enfin qui nous donne, non, qui nous les vend.
On aimerait bien qu'il nous les donne.
Des blousons de cuir, le tout en cuir, le spécialiste du luxe pour le cuir et la fourrure, on peut dire ça.
Absolument,
comme ça.
Absolument, oui.
Jean-Claude J3, bienvenue chez nous. Ils
Merci.
Ont eu du mal, mes camarades.
Oui, mais je les aime bien quand même. Hein.
Vous êtes gentil. Mais votre frère va, votre petit frère.
Mais j'ai pas de petit frère.
Vous lui avez piqué sa veste pourtant, non?
Pourquoi?
Parce qu'elle est trois tailles trop petites, votre veste.
Mais
mettez-vous
non.
debout.
Oui, voilà.
Oh non, mais vous allez vous changer tout de suite. Hein. vous n'arrivez même pas à la fermer.
Mais si.
Bah, vous non plus.
Fermez-la un peu.
Non, 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 non. Moi, je ne vous conseille pas de vous habiller chez vous. Hein.
Ah bon, d'accord.
Ah non, non, vous okay. vous loupez.
Ah, si, d'accord. Attends, vous c'est magnifique.
Vous vous vengez parce que vous ne m'avez pas trouvé tout de suite.
Ouais, c'est le roi c'est ça.
Titoff a frôlé, évidemment. Ouais. Quand il a dit Jean-Paul Gaultier, vous avez été très adroit parce que vous n'avez pas moufté. Vous avez dit non. Hop, voilà. Ouais. Et moi, alors, j'ai enchaîné très vite parce que je me suis dit, oulala, ils sont en train de brûler. Ouais, et après, alors, ils ont été perdus. Et pourtant, quand même. En dehors du fait qu'on avait dit effectivement que vous étiez né à Narbonne, ça, tout le monde n'est pas censé le savoir. Mais enfin, quand même, une fois qu'on a entendu Elton John, Michel Polnareff, quand même, son retour à Bercy en France, il y a maintenant quoi, 3-4 ans ?
Absolument, 3 ans, j'ai fait toute la tournée avec lui et j'étais son habilleuse.
La tenue cuir de Polnareff, c'est Jean-Claude J3, quand même.
Et nous, on a pensé au lion de Madagascar.
Oui, mais on a été perdus par les indices.
Johnny Hallyday, le costume de scène en crocodile bleu pour les 50 ans de Johnny.
Absolument. Avec les franges, Johnny Hallyday à l'époque.
Ah ouais, toujours.
Mais rassurez-nous, Florent Pagny, c'est pas vous.
Non,
ok.
Ah, pourtant, vous avez lancé un piton il n'y a pas longtemps.
Oui, absolument. Oui,
vous l'avez lancé très loin ou...
Pas très loin.
C'est quoi ce nouveau piton que vous avez lancé?
C'est du piton stretch.
Alors, expliquez, parce que vous, en fait, d'après ce que j'ai compris, vous avez réussi à créer une forme de cuir stretch qui fait que, en fonction de la personne qui la porte, le cuir change un peu de couleur, c'est ça?
Oui, c'est un peu ça, mais je pense que c'est une double peau, déjà. J'ai créé une double peau stretch. Le cuir, jusqu'à présent, c'était politiquement incorrect. Aujourd'hui, le cuir peut défiler et peut monter les marches avec une robe du soir au Festival de Cannes. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'une femme qui n'a pas de cuir dans sa garde-robe n'a pas d'avenir. N'est-ce pas, Titoff ?
Une femme qui a 50 ans n'a pas une robe de cuir.
Lui, c'est Pierre Bénichou. Moi, c'est moi, Titoff.
Il se venge.
C'est Pierre Bénichou. Hein.
Jean-Claude J3, oui. Alors, ces stars que vous avez habillées, là, Lady Gaga, par exemple, oui. C'était quand, ça, par exemple ?
Il y a 3 ans, quand elle est arrivée en France, la première fois, elle a voulu voir ma collection et nous avons eu un très bon rapport. Mais... Et je l'ai habillée en cuir.
Mais une fois, elle est montée avec une robe de viande. Le cuir n'avait pas été travaillé encore.
Non, absolument pas.
C'était de la vache retournée, ça.
Ça ne venait pas de mes ateliers, ni de mes abattoirs.
Ça vient
de
Rungis, ouais.
Mais par contre, moi, là, j'ai une question. Oui. Cette histoire de cuir qui change de couleur, ça, c'est... ça dépend qui le porte.
Des effets que ça fait. Oui, oui, ça ne change pas de couleur, ce sont les effets, évidemment. C'est qu'il se patine, évidemment, ce cuir.
C'est un peu comme la soie. Et je trouve que, justement, il y a de la moire dedans.
Ça se moire, tiens, j'allais le dire.
Ça soif.
Ça se moire. Tu sais, quand c'est moiré, c'est comme tu verrais les reflets. C'est pas fait que des reflets, tu vois.
Ne les écoutez pas, Jean-Claude
Dutroux. Non, mais je les écoute très bien. Je suis très content parce que ça suit le corps, les reflets.
Ici, à Cannes, par exemple, qui vous allez habiller pendant ce festival?
Ah ben, vous devez deviner.
Ah, je réfléchis. Alors, bah, Sarah Marshall, comme
voilà,
d'habitude.
Voilà, mademoiselle Sarah Marshall.
Elle est parente avec Michel Morgan, ce qui paraît.
Oui, oui.
mais parmi les comédiennes, il y a quelqu'un, on va dire, parmi les sélectionnées, est-ce que vous essayez d'habiller? Est-ce que c'est aussi votre but en venant ici d'avoir une des stars, pardon pour Sarah Marshall, c'est une vedette, mais ce n'est pas une star de cinéma, d'avoir une des stars de cinéma qui porte vos tenues?
C'est arrivé très souvent.
Bien sûr, mais oui. Cette année, est-ce qu'il y en aura?
Peut-être.
Oui. Alors, on ne peut rien dire.
On ne peut rien dire encore. Mais demain soir, il y a des montées de marche après-demain. Et tout le monde sait que j'ai une garde-robe à la disposition des stars qui, au dernier moment, ont oublié leurs chaussures ou ont oublié leurs robes.
Faites gaffe, il y a Daniel Alombroso qui va venir vous voir.
Vous voyez quoi pour notre nouveau président de la République comme costume en cuir, par exemple?
Pour François Hollande,
qui est un peu serré. Quoi.
Une petite cravate.
Cravate en cuir.
De la vache de Hollande. Alors attendez, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on a entendu que vous étiez né à Narbonne grâce à la chanson de Charles Trenet. Je ne vais pas repasser tous les indices, hein, on les a expliqués. Tous les artistes qu'on a pu entendre, c'est parce que vous les avez habillés pour la scène. Ce que j'ignorais, c'était que votre papa était militaire, aviateur, et que c'est un peu grâce à son blouson d'aviateur que vous avez eu cette idée de reproduire ce blouson.
Oui, je pense que mon père m'interdisait de porter ce blouson parce qu'il était pilote et donc c'était un outil de travail. Et dès qu'il partait, je me précipitais pour me mettre le blouson, prenais un balai et je jouais au pilote. Et donc, je n'avais pas le droit parce qu'il était bardé de décorations et je voulais après absolument avoir ce blouson de cuir. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé travailler cette matière qui est une matière fétiche pour moi.
Et si on suit ce raisonnement, le papa de Jean-Paul Gaultier était dans la marine alors.
Peut-être, allez savoir.
Moi,
Je suis pas cuir. Dans le privé, oui. Mais vous êtes dans la vie publique. Alors, je ne désire pas que vous m'habilliez, mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me nourrir?
Pourquoi pas?
Il y a autre chose qui est intéressant dans le parcours de Jean-Claude Gittroy. Il y aurait 10 000 choses à raconter. Mais d'abord, précisons que vous êtes un vrai régional de l'étape ici, puisque votre première boutique, c'est à Nice, que vous l'avez ouverte en 1976.
Oui, absolument.
D'abord Nice, ensuite il y a eu Juin-les-Pins et Saint-Trope.
Absolument.
Donc vous êtes vraiment d'abord le couturier de la Côte d'Azur.
Oui.
Et puis vous êtes monté à Paris. Vous avez créé votre première boutique en nom propre, rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle est d'ailleurs toujours à la même adresse.
Absolument.
Mais vous êtes vraiment un enfant de la Côte d'Azur.
Oui, je suis un enfant du pays. J'ai perdu l'accent, mais je peux le retrouver.
Pierre, qu'est-ce que vous dites?
Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas vraiment perdu l'accent.
Ah bon, je l'ai
entendu. On sent qu'il y a une lutte. Bonjour. On vient en tant que c'est pas alors. Non, un mec sans accent, c'est moi, quoi. Tu as compris? Moi,
on a parlé de Lady Gaga, mais on pourrait aussi citer Rihanna, Shakira.
Absolument.
Mais aussi des sportifs. Emmanuel Petit, quand on le voit en cuir, c'est vous. Oui. Michael Schumacher. Zinedine Zidane, il porte du cuir.
Oui,
le ballon, alors. Oui. Non, c'est vrai, vous avez habillé Zinedine Zidane.
Lui et sa femme, beaucoup.
Bon, Makelele, Thierry Henry. Vous êtes effectivement un couturier toujours à la pointe de ce qui se fait, et depuis peu sur Internet.
Oui, absolument.
C'est-à-dire que vous vendez sur Internet.
Absolument.
On n'est plus obligé d'aller en boutique.
Exactement, dans le monde entier.
Mais on peut acheter, parce que c'est pas facile à acheter du cuir sur Internet quand même.
Sans essayer.
Oui, sans essayer.
Mais alors, il faut que ce soit stretch, parce que tout le monde n'a pas, par exemple, les mêmes fesses. Or, d'un pantalon en cuir, ce qui est joli, c'est quand ça les moule.
Oui.
Ce que je veux dire ?
Alors, je pense, oui.
Alors donc, comment faire ?
Devant, derrière, partout.
Ce qui est d'autant plus étonnant, parce que je voudrais quand même le dire, c'est que vous avez non pas démarré du tout dans la mode, mais vous avez fait des études de psychomotricité à l'hôpital de la Salpêtrière. Vous avez travaillé et enseigné dans la psychomotricité. Vous avez même publié sous votre vrai nom, Jean-Claude Coste, dans la collection Que sais-je ? La psychomotricité.
Absolument.
Et c'est en travaillant pour les enfants et pour leur psychomotricité que vous avez créé vos premiers costumes, en fait.
Exactement, oui. Je faisais des jeux de rôle. Et dans les jeux de rôle, je travaillais avec du papier crépon. Je faisais des robes pour des jeunes femmes qui avaient du mal à accepter leur féminité. Donc, nous jouions ces jeux de rôle, c'est-à-dire un psychodrame. Et un jour, une de mes assistantes m'a dit « Je pourrais peut-être porter cette robe pour aller à une soirée. » Donc, elle l'a empruntée et... Le lendemain, quand elle est revenue, elle m'a dit « j'ai fait un tabac, tout le monde voulait me déchirer ma robe en crépon, etc. » Et je pense que là, entre le blouson de mon père et la robe de cette assistante, j'ai fait le grand écart et j'ai laissé la psychomotricité et la psychologie pour attaquer la mode.
Avec quel succès, on vous remercie d'avoir été notre invité d'honneur.
Merci.
Jean-Claude Gittroy, ici à Cannes, avec Sarah Marchal. On va remercier toutes les équipes techniques, équipes de repas. Ceux qui nous ont accueillis ici au Majestic. Merci à Audi qui nous a transportés aussi. Tous les sponsors qui ont fait que pendant 48 heures, on vous a fait un peu vivre du Festival de Cannes. Bon week-end sur Europe 1, à lundi.
C'était On va se gêner en direct du Majestic avec HP, partenaire officiel du Festival de Cannes. Vivez aussi le Festival de Cannes sur la page Facebook HP France.
Et à lundi, Laurent Ruquier. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Europe 1 Soir. 2 heures d'infos, de décryptage et de débat.